veux quelqu'un à côté de toi ou tu peux qu'elle soit seule? Ça va, quand même.
Merci aussi de nous remercier. Alors, c'est Unidiver qui a proposé, c'est Monique qui a fait la demande, mais c'est l'association Unidiver qui a proposé donc, cette rencontre ce soir. Car pour beaucoup d'entre vous qu'on reconnaît, vous vous souvenez, on était venus ici pour la pièce Pierre et Mohamed, et il y a 2 ans. Et ça avait été une très belle rencontre, et ce soir, nous allons partir vers d'autres rencontres en chemin dans la vie. Alors, nous sommes aussi heureux d'accueillir ce soir Philippe Lefebvre, frère dominicain, professeur d'écriture sainte à l'université de Fribourg. Alors, plusieurs parmi nous ont déjà entendu, on a joie d'entendre déjà, que ce soit Ariane Lejeune, quelques-uns l'ont rappelé, dans l'université d'été des Amis de la vie, il y a quelques années, le thème était le temps dans la Bible. Souviens-toi. À Grenoble aussi, puisqu'on a des amis de Grenoble qui sont venus ce soir. Il était aussi intervenu dans le cadre des Amis de la vie. Et puis surtout à Fribourg, il y a 2 ans, vous savez, l'univers, on propose des voyages tous les 2 ans, et on avait ciblé Fribourg, le petit coin de Suisse. Et Philippe nous avait parlé alors de l'interculturel et de l'interreligieux dans la Bible. Alors, que dire de Philippe? C'est un passionné de la Bible, et pour cause, moi je ne le connais pas plus que ça, mais je suis allée me renseigner. Et j'avais un élément d'une revue qui s'appelle Panorama, où il avait donné une interview à une journaliste. Alors j'ai repris les propos, et je trouve que ça se situe bien. Je reprends ce que je disais. À l'âge de 7 ans, Philippe est tombé dans la Bible comme dans une potion magique. Et il ne s'en est jamais remis. Amoureux des mots, cet agrégé de lettres, spécialiste réputé de l'Ancien Testament, a gardé vis-à-vis de la parole de Dieu un enthousiasme d'adolescent. Elle le fait rire, bondir, frémir, pleurer. Une parole de vie. Amoureux des mots, et je cite encore Philippe, des mots pour dire des choses, pour avoir le droit de les dire. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de dire que dans sa famille, c'est un peu dur? On aimerait, comme dans les contes, partir en suivant un jour de fifre. On dit que la lecture est une évasion, mais c'est l'inverse. Les mots ouvrent une trouée vers le réel. La Bible m'a véritablement initié à la vie. Et Jésus a été mon joueur de fifre. Philippe est originaire du Nord, Pas-de-Calais, hein. Et dans cette interview, j'ai noté encore, il dit « J'aime profondément les collines de l'Artois. Quand la Bible parle de collines, ce sont elles que je vois. J'ai beau connaître le mont des Oliviers, le mont des Gaux, je n'éprouve pas une émotion moindre en Artois. Je crois qu'on apprend une terre pour s'initier à la terre en général. » S'il donne des conférences, des cours, Philippe écrit aussi beaucoup. Vous avez pu remarquer à l'entrée quelques titres de ses ouvrages. On ne les a pas tous pris parce qu'il y en a beaucoup. Il m'a annoncé qu'il en sortait encore un prochainement.
Il est sorti.
Donc, vous pouvez vous renseigner aussi à la procure pour trouver ces titres. Ce soir, avec Philippe, entrons dans la Bible sur les chemins de la rencontre et du dialogue. Et Olivier va vous dire un petit mot dans quel esprit aussi l'univers a préparé cette rencontre. Merci.
Alors, est-ce que sans micro, c'est suffisant ou
micro?
Oui,
ça va.
Non, prends le micro.
Bon, je vais prendre le micro.
Parce que en fait, on ne voit que le micro, on voit pas votre visage. Alors, je ne sais pas si
vous aviez rencontré Philippe Lefebvre en Suisse, voilà. Nous lui avions demandé d'intervenir unité, diversité.
Philippe
nous avait emmené sur les chemins de la diversité dans la Bible. Hein, la Bible, nous lisons la Bible, mais la Bible nous lit. C'est-à-dire que nos expériences aussi vont à la rencontre de ce qui est dans la Bible, et la Bible vient à la rencontre de nos expériences. Et Philippe nous a emmenés sur des chemins denses, féconds et humoristiques en plus. Voilà. Alors ce soir, nous lui avons dit, nous avions envie de voir comment il pouvait nous guider sur ces mêmes chemins, comment la Bible nous parle de la rencontre et du dialogue. Comment passer d'une rencontre qui malheureusement souvent se finit, vous le savez, en dialogue de sourds, comment arriver à un dialogue fécond qui nous met en route, qui nous transforme, qui nous bouge, qui va faire évoluer nos convictions. Voilà. Et il nous a semblé que la Bible avait à nous dire sur ces sujets-là, et je crois que Philippe va nous éclairer. Alors là, je reprendrai un petit trait d'humour de Philippe Lefebvre que j'avais entendu dans sa conférence. Il dit, quand on lit la Bible, il y a... quand on veut essayer de lire la Bible intelligemment, il y a généralement au moins trois choses nécessaires. Il faut une Bible, il faut quelques neurones, et puis il faut l'esprit. Alors, la Bible, on a un bibliste, c'est parfait, hein, on a même un bibliste, quelques neurones, nous tous, on va y arriver quand même. Et puis, l'esprit, on n'a pas trouvé son adresse exacte, mais lui, il saura bien nous trouver ce soir. Hein, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Philippe.
Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci de ces présentations et puis aussi de cet accueil dans ce bel endroit clair, vaste. Alors, puisque l'esprit est quand même à l'ordre du jour, je vous lis juste un verset du psaume 119, le verset 130, qui est peut-être mon préféré dans ce très long psaume, le plus long. Ouvrir ta parole illumine et les simples comprennent. Je dis quelquefois que la Bible c'est difficile, c'est compliqué, faut voir. En y allant, on s'aperçoit qu'on fait une rencontre et qu'un dialogue s'instaure. Et que ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est toujours bien de ne pas comprendre tout de suite. Vous voyez, il y a tellement de gens qui savent tout sur tout tout de suite, que c'est fatigant. Donc, quand on dit « je ne comprends pas », mais c'est une bénédiction. Ça veut dire justement, on va pouvoir dialoguer et demander à celui qui a inspiré le verset ou le texte qu'on ne comprend pas, de nous éclairer, et puis nous-mêmes de vivre avec ce texte, de durer avec lui, de l'interroger. Voilà, un dialogue. Alors, je vais essayer de parler ce soir sur ce thème de la rencontre-dialogue. Ça sera plus par flash successif. Je ne vais pas faire une espèce de doctrine ou de théorie, mais plutôt, comme le dit aussi le sous-titre, voir qu'il y a des chemins ouverts dans la Bible pour tout ça. Et donc, voilà. Et puis, en introduction, je dirais que se reporter à la Bible, ça n'est pas essayer de trouver en elle des solutions toutes faites. Dans la Bible, on trouve plus une certaine manière, un certain regard, une certaine manière d'être au monde et de l'interroger, de se laisser interroger par lui. On va trouver aussi une matière abondante, rencontre, dialogue. On va passer une heure ou deux ce soir, il nous faudrait 2-3 mois pour commencer un peu à émerger de toute la matière biblique qui serait à traverser. Donc pas des solutions, mais un certain regard, une certaine manière d'interroger la réalité et de se laisser interroger par elle. Et pas non plus un mode d'emploi, comment faire un dialogue, comment faire une rencontre, vous savez, comme ces livres « Faites-vous des amis en 10 leçons », bon, c'est pas trop possible dans la Bible. D'ailleurs, s'il y a un mode d'emploi, c'est plus une rencontre. Vous savez, quand on est ado, comment on va parler aux filles ? Ah, il y a toujours les grands qui savent, il faut leur dire ça, ça, ça. Si ça marchait si bien que ça, ça se saurait à force. C'est-à-dire, le mode d'emploi tue la rencontre. Ça ne se programme pas, une rencontre. Ça ne se prévoit pas. Donc, la Bible qui nous parle de rencontre ne va pas nous donner des modes d'emploi, mais plutôt, elle va nous présenter des expériences sans d'ailleurs toujours nous dire grand-chose. Enfin, c'est la manière dont elle présente les choses qui fait sens, mais il n'y a pas un petit discours moral après pour dire « Ah là, c'était une méchante rencontre, là, c'est une bonne rencontre. » Non, il y a des rencontres, il y a des choses, c'est toujours improbable et toujours un peu énigmatique. Hein. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure d'un travail sur Jésus et la fameuse pécheresse de Luc 7. C'est une rencontre absolument étonnante. Jésus invité par des pharisiens bon teint, et tout d'un coup, il y a sans doute la prostituée du coin, ou que sait-on d'elle, on ne sait pas, qui vient lui masser les pieds avec ses cheveux, ce qui est quand même un peu surprenant, hein, dans une rencontre de ces braves croyants. Et c'est une rencontre, il se passe quelque chose. Donc la Bible va nous donner sans cesse des expériences de rencontres, de dialogues qui se font, mais on ne peut jamais en faire une théorie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la vie qui prime. Donc je voudrais, dans un premier point, dire ceci. La Bible ne va pas seulement nous dire des choses, nous montrer des rencontres, nous parler du dialogue et de ses difficultés, et de sa complexité, mais elle est elle-même, comme texte, un exemple de rencontre et de dialogue. Pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité en particulier, quand on commence à écrire, nécessairement, on se reporte et on reprend beaucoup d'histoires, beaucoup de paroles qui ont déjà été dites ou écrites. Pour donner tout de suite des exemples, quand la Bible nous raconte le déluge, par exemple, il n'y a sans doute pas de texte plus ancien et d'histoire plus ancienne, plus anciennement racontée chez les humains que le déluge. Il y a des récits de déluge nombreux, en Mésopotamie, en Grèce, à Rome. C'est une expérience. Alors, quelle que soit cette expérience, est-ce que c'est un tsunami, est-ce que c'est des pluies abondantes qui ont laissé des traces dans la mémoire humaine, c'est sans doute beaucoup de choses comme ça. Mais quand la Bible nous parle du déluge, elle n'est certainement pas la première à le faire. Hein, l'épopée de Gilgamesh, vous savez, en Mésopotamie, qui est le plus ancien texte littéraire jamais écrit, dont la mise par écrit remonte à plus de 40 siècles, hein, Donc c'est pas mal, hein. Ça je dis souvent à mes étudiants, un bouquin qui passe la barre des 40 siècles, c'est que c'est pas mal en général, il y a quelque chose. Bon. La Bible c'est pas mal non plus, 20, 25 siècles, bon, pas mal. Bon. Donc, quand la Bible nous raconte le déluge, elle reprend une matière qui a déjà été travaillée, qui a déjà été évoquée dans des textes, c'est-à-dire elle entre en dialogue avec ces textes. Parce que reprendre, ça ne veut pas dire faire un duplicata et puis reproduire à l'identique, ça veut dire je vais reprendre, mais il y a du nouveau dans cette histoire du déluge. Il y a un Dieu qui est intervenu avec un de ses amis, Noé, et donc tout est pareil qu'avant, mais rien n'est tout à fait pareil qu'avant. Voilà, quelque chose qui, je crois, nous met sur le chemin du dialogue. Ce qui a déjà été dit, je ne l'ignore pas, je le reprends, et c'est un hommage que la Bible rend à tous les textes qui l'ont précédé et à l'expérience humaine qui s'y est exprimée. Et en même temps, je vais en faire autre chose, je vais l'emmener plus loin ou dans des chemins, cette histoire du déluge, qui n'avait pas été dit comme ça, qui n'avait pas été mis en lumière. Et vous pouvez prendre presque toutes les pages de la Bible, c'est quelque chose comme ça qui se passe. Avant le déluge, vous savez, il y a dans les premiers chapitres l'histoire du jardin magnifique, le paradis. Là encore, il y a beaucoup de cultures, beaucoup d'histoires qu'on raconte autour de la Bible où il y a des jardins magnifiques. Par exemple, si vous avez lu en Grèce les travaux d'Hercule, les travaux d'Héraclès, vous savez, un des travaux d'Héraclès, donc ce grand personnage mythique de la mythologie grecque, on raconte des tas, des cycles d'histoires sur lui. Donc il a fait 12 travaux pour libérer l'humanité, les humains de monstres ou d'ennuis terribles. Et un de ces travaux, c'était d'aller prendre les fruits dans un jardin, le jardin des Hespérides, tout à fait à l'ouest de la Méditerranée, sans doute au Maroc. Et ces fruits étaient dans un jardin divin, interdit en principe. On ne pouvait pas les prendre et ils étaient gardés par un serpent. Ça ne vous rappelle rien, c'est un jardin magnifique, des fruits qu'il ne faut pas prendre et un serpent, évidemment. Donc, le jardin magnifique, le serpent, etc., ce sont des histoires qu'on se raconte un peu partout, dans des cultures assez différentes, parce qu'il y a des choses autour de ce jardin. L'expérience du jardin, elle est importante. L'Odyssée d'Homère, ça se termine aussi dans un jardin. C'est là qu'Ulysse est complètement reconnu par ceux qui l'avaient connu 20 ans auparavant. Et il se passe des choses. Bon. Donc, vous voyez que la Bible est en perpétuel dialogue avec des cultures, des histoires, des mythes, et puis tout ce qui s'attache déjà à ces histoires. Toute la réflexion humaine, je dirais, l'émotion humaine devant le déluge, devant le jardin, etc. Et on pourrait, j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure, continuer. Le Nouveau Testament, par exemple, continue. Le Christ ressuscité, mais les Actes des Apôtres reprennent tous les mythes qu'ils peuvent trouver pour les explorer et essayer de montrer qu'en eux, il y a déjà quelque chose que le Christ est venu nous dire et qu'il est venu accomplir. Donc, vous voyez, la Bible, c'est issu, je dirais, de multiples rencontres, de multiples dialogues qui ne se font pas facilement. Pour ça que ça s'écrit lentement, un livre comme la Bible, c'est pas on reprend tout, on est très content, tout va bien, il n'y a pas de problème. Si, il y en a plein, c'est très compliqué de dialoguer. Hein. Mais il y a ce fait massif. Je donnerai quelques autres exemples là-dessus. Et c'est quelquefois tout à fait étonnant. Alors, je vais parler de deux livres qui sont des livres deutérocanoniques, qui ne sont pas dans le canon reconnu par les églises protestantes, mais qui sont importants quand même dans le monde ancien, le judaïsme ancien. C'est les deux livres des Maccabées. Vous savez, c'est à une époque, deuxième siècle avant notre ère, où la culture grecque envahit tout, mais la langue, et puis la culture qui envahit tout, quelquefois au point d'être un peu étouffante. Vous savez qu'en Israël, il y a des gens, les Maccabées, les frères Maccabées, qui vont résister à la culture grecque. Et on raconte leur histoire dans les livres des Maccabées. En quelle langue ? En grec. Comment on fait pour résister à la culture grecque ? On écrit un bouquin en grec pour dire qu'il faut résister à la culture grecque et à la langue grecque. Bon, voyez, donc ça veut dire, ça suppose toute une réflexion, une pensée, qu'est-ce qu'on peut prendre à une culture qui est importante et qui va nous aider, par exemple la langue, la façon de dire, c'est très grec comme livre, les livres des Maccabées. Et en même temps, pour dire, avec cette même langue, attention, il ne faut pas qu'elle devienne envahissante au point de nous étouffer. Vous voyez, on est toujours dans des lignes de crête, dans des réflexions. C'est pas qu'on s'ouvre inconsidérément à tout, c'est pas non plus qu'on se ferme délibérément à tout. C'est on dialogue, voilà. C'est chacun est ce qu'il est et que va être la rencontre. Bon, il faut voir. On pourrait donner vraiment énormément d'exemples là-dessus. J'en donne peut-être un pour commencer, parce que c'est un exemple que donne l'évangile de Luc quand il commence. Vous savez, au début de l'évangile de Luc, il y a trois femmes. Il y a Élisabeth, qui a un fils qui va s'appeler Jean, Yohanan, c'est-à-dire Dieu fait grâce, le Seigneur fait grâce, Yohanan, Jean. Il y a Marie, que l'ange appelle d'un nouveau nom, pleine de grâce. Et puis il y a la prophétesse Anne au temple quand Marie va présenter son petit, et Anne en hébreu, Hanna, ça veut dire grâce, donc Madame Grâce. Donc il y a Madame pleine de grâce, Madame Grâce, et puis la mère de le Seigneur fait grâce, Jean. Les trois grâces. Et je pense que Luc l'a fait délibérément. C'est-à-dire qu'à l'époque de Luc, dans l'Empire romain, on honorait trois divinités qu'on appelait les trois grâces et qui avaient pour mission d'accueillir les enfants à leur naissance. Et je pense que Luc, comme il le fait dans plusieurs endroits, pourra peut-être en évoquer, reprend, ok, trois femmes qui accueillent un enfant, ça lui plaît, mais c'est plus des déesses. Cette fois-ci, les trois grâces, c'était des déesses assez mystérieuses. Ce ne sont plus des déesses, ce sont des femmes. Et ça, c'est un grand mouvement biblique. Hein. Il y a beaucoup de savants qui ont travaillé, vous savez, sur le Moyen-Orient, où il y avait beaucoup de déesses. J'ai même un de mes collègues à la retraite maintenant qui est fasciné par les déesses, notamment par les jolies déesses des panthéons d'Orient. Mais je lui ai dit, la bonne nouvelle de la Bible, c'est qu'il n'y a plus de déesses dans le ciel, mais il y a des femmes sur la terre à rencontrer. Et c'est quand même nouveau. Et je pense que Luc, nourri par la Bible, continue ce mouvement. Vous voulez trois femmes à la naissance qui accueillent des trois êtres féminins qui accueillent les enfants. Quelle bonne idée. Oui, en effet, il ne faut pas moins de trois femmes pour accueillir un enfant. Mais pas des déesses, justement. Des femmes. Ça se passe sur la terre et c'est là que Dieu est parmi nous. Donc, vous voyez, il y aurait beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais ça reste une science de l'écriture biblique, ces emprunts continuels, cette manière de dialoguer. Puis je voudrais encore ajouter une chose, c'est que la Bible, dès le 3e siècle avant notre ère, elle est traduite en grec. Hein, c'est ce qu'on appelle la traduction de la Septante. Mot à mot, c'est la traduction des Septantes, puisque selon une tradition très ancienne, juive, il y a eu 70 ou 72 traducteurs qui ont collaboré pour faire cette traduction. Donc ce que nous appelons, nous chrétiens, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, a été traduite en grec avant notre ère. C'est même la première fois dans l'histoire humaine qu'on parle de la Bible, c'est-à-dire qu'un texte extérieur à la Bible parle de la Bible, dit il y a un objet Bible qui est un bouquin qu'utilisent les juifs et qui est traduit en grec. Donc la traduction, c'est aussi l'arrivée dans l'histoire de la Bible. Et c'est très important aussi de traduire. On dit quelquefois, mais la Bible c'est intraduisible, il faut apprendre l'hébreu. Oui, si on peut le faire, tant mieux, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas possible pour tout le monde dans l'immédiat. Donc la Bible a été traduite, et traduire, vous savez, c'est entrer dans, alors là vraiment dans la rencontre et le dialogue. Quand on traduit, on est toujours en train de se poser des tas de questions. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Comment on va le rendre? Est-ce qu'il faut traduire de manière littérale? Est-ce qu'il faut traduire d'une manière compréhensible? Est-ce qu'il faut traduire plutôt littéralement tout en étant compréhensible? Bon, et les traducteurs grecs, qui sont des juifs, qui ont traduit en grec la Bible, se posent toutes ces questions. Et il y a des livres qui sont traduits plutôt littéralement, d'autres un peu plus loin, d'autres qui sont 50-50. Et on sent que à chaque livre, et pour certains livres en particulier, ils se sont posés énormément de questions. Par exemple, le traducteur grec des Proverbes, sans doute 2e siècle avant notre ère, connaît très bien la culture grecque. C'est un juif lettré qui connaît sans doute Aristote, Platon, Homère, enfin la philosophie, la littérature grecque, et qui fait passer des petites choses de cette culture, comme pour dire, là encore, coup de chapeau à cette culture grecque qui a déjà formulé elle-même, qui a déjà des mots qui vont nous servir à traduire l'hébreu, etc. Et certains traducteurs, dans certains livres, font même entrer des mots grecs qui n'ont pas exactement l'équivalent dans l'hébreu. Et c'est tout à fait étonnant, et c'est assez même touchant de le remarquer, tout en étant très doué pour la traduction. Mais voilà. Donc, je rappelle ces petites choses parce que je dirais que la nature même de la Bible, c'est d'être justement dans ce perpétuel va-et-vient. Avec ce qui s'est déjà dit, ce qui s'est déjà écrit, ce qui s'est déjà pensé, et cette nouveauté de la révélation de Dieu qui parle à ce peuple, mais qui ne parle pas indépendamment de ces cultures. Et voyez, donc la Bible, c'est pour moi une première œuvre à la fois d'inculturation et de dialogue avec les cultures ambiantes qui proposent déjà beaucoup de choses. C'est un grand hommage, la Bible, rendue aux cultures. Et puis la Bible elle-même, pour les chrétiens, vous savez, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là encore, ça crée un dialogue. Pour moi, c'est un peu mon créneau, si j'ose dire, dans la recherche biblique, c'est les rapports de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont toujours en train de se parler. Mais l'Ancien est déjà en train de se parler lui-même. J'avais fait un cours un jour, par exemple, sur les premières pages des livres bibliques, comment on commence. Le cours s'appelait « Commencer ». Bon, oui, bon. Et non, mais j'étais jeune à l'époque. Et on voit que les premières pages, déjà dans l'Ancien Testament, ont le souvenir l'une de l'autre, s'interpellent, se reprennent, et ça continue avec le Nouveau Testament. La première page de Saint Luc, par exemple, on avait travaillé ça avec des étudiants il y a 2 ans, on a découvert à peu près, mais c'est pas, on n'a pas fait tout le travail, à peu près 400 références à l'Ancien Testament, voyez, et notamment à plusieurs premières pages de l'Ancien Testament. Donc, on est toujours sous le régime du dialogue, de la rencontre. L'Ancien, le Nouveau, les cultures ambiantes et la parole de Dieu, et on navigue là-dedans, et c'est plutôt bien. Alors, quelques mots, je vais être rapide, là c'était à peine une introduction et j'ai encore 3 milliards de choses, bon, je vais en dire que 2 milliards et demi. Je dirais que dans notre questionnement ce soir, il y a les mots rencontre, dialogue. Je dirais que ces mots, finalement, c'est un peu c'est le thème fondamental de la Bible. C'est-à-dire, la grande question de la Bible, c'est: est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de l'autre? Alors, on peut dire Dieu, autre, avec un grand A, oui, mais aussi des autres. Il y a des autres qui sont là et qui vous parlent. Et pour moi, dans la Bible, cette conscience qu'il y a de l'autre, c'est le critère essentiel. Quand on parle dans les psaumes des méchants ou des impies, c'est ceux pour qui il n'y a pas d'autre. Il n'y a plus de place pour eux. Il y a nous, il y a ce qu'on dit, disait le psaume 73, vous verrez ça. Dans le psaume 73, on parle des beaux parleurs qui sont toujours, enfin, qui ont tout en main, hein, qui ont le pouvoir, la voix, la parole. On dit même que leur langue va jusqu'à lécher le ciel et elle court sur la terre. Donc, quoi que tu fasses, tu es confronté à leurs paroles, ces paroles d'évangile, tout ce qu'ils disent, c'est ça. Et le psalmiste dit, et tout le peuple les suit. Bon. Et le psalmiste se trouve comme un imbécile à côté en disant, mais peut-être je devrais faire comme ça. Puis finalement, il dit non. Mais ce qu'il décrit, c'est un monde où il n'y a pas de place pour autre chose que pour la caste qui domine et qui envahit toute sa parole. En plus, ces beaux parleurs, ils sont évoqués comme des gros. Alors, ce n'est pas quelque chose contre les obèses, c'est quelque chose contre les gens encombrants, ceux qui occupent toute la place et qui, il n'y a plus place pour personne. Et le grand critère biblique, c'est est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre, pour Dieu et puis pour tous ceux qu'on aurait vite tendance à plus écouter. Les prophètes, les petits prophètes, par exemple, Amos, c'est toujours dire, mais... il y a des pauvres, des gens à votre porte qui appartiennent pas à la classe dominante. Est-ce que quelqu'un y fait attention? Et si vous regardez dans les petits prophètes, Amos, Sophonie, Michée, Osée, quand on décrit le pauvre, c'est celui qui n'a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de lieu pour lui. C'est ce que dira Isaïe au chapitre 5. Les riches achètent tous les terrains, et leurs maisons se touchent, avec, ils achètent tout, et... les populations du centre-ville sont rejetées à l'extérieur. Ça arrive dans beaucoup de métropoles, y compris en France. Les prix montent, les terrains sont achetés par les plus riches, et puis les pauvres, bah, ils se démerdent. Et quand vous regardez les prophètes, les petits prophètes en particulier, donc on assiste à ces phénomènes où ceux qui prennent la place empêchent d'autres que des gens de leur parti, de leur standing, d'avoir une place. Et donc Amos va dire, par exemple, le pauvre, c'est celui qui n'a pas de place, celui qu'on n'entend pas, quand il parle, on ne l'écoute pas, et qui deviennent invisibles, on ne les voit pas, on ne les voit plus. Ben, c'est exactement la définition de Dieu. Dieu, il n'a plus de place, et Amos dit, quand vous êtes en train de faire vos petites salamalek au temple, vous êtes déjà en train de penser au cours du dollar, du yen, etc. Vous n'êtes plus du tout à ce que vous faites, donc il n'a plus de place. Vous ne l'écoutez pas du tout, il vous parle, vous ne l'écoutez pas. Jérémie, c'est son leitmotiv, j'ai envoyé, dit Dieu, des prophètes dès le matin, vous n'avez jamais écouté. Et puis vous ne le voyez pas. Il agit, il est là en la personne de ses amis ou des plus humbles, vous ne voyez pas. Donc qui est le premier pauvre? C'est Dieu. Pas de rencontre, pas de dialogue, et vous l'avez perdu de vue. Donc le grand critère, on pourrait longuement parler là-dessus, ce seul point, ça pourrait faire plusieurs soirées, le grand critère, c'est justement le critère fondamental, est-ce qu'il y a rencontre, est-ce qu'il y a prise en compte de l'autre? Des autres, et Dieu, le pauvre, qui que ce soit qui m'entoure. Et vous savez, il y a une formule, un mot technique qui dit cette rencontre, cette prise de conscience, on prend acte qu'il y a quelqu'un autour de nous. C'est la crainte de Dieu. C'est pas un mot qui doit faire peur, justement. La crainte de Dieu, ça veut dire je prends acte qu'il y a quelqu'un, que je suis pas tout seul, que quand je vais parler, quand je vais agir, c'est pas comme on dit très souvent dans les prophètes, de mon propre cœur. Vous savez, le cœur, c'est le siège de l'intelligence, de la pensée, de la décision. Je parle pas de mon propre cœur, je parle en conversation avec un autre, avec Dieu. Et quand je prends une décision, je le fais avec d'autres qui sont autour de moi. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que je ne suis pas tout seul. Hein? Et c'est toujours ça, le grand critère, le grand élément sur lequel vitupèrent les prophètes, c'est pas de crainte de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la crainte des autres. C'est très très courant dans la Bible. Quand qui dit crainte de Dieu, ça veut dire je prends acte qu'il y a Dieu, ça veut dire je prends acte aussi qu'il y a des autres. Et si je, inversement, si je fais comme si les autres n'existaient pas, Dieu n'existe pas non plus pour moi, même si je suis très pieux et que je fais des tas de petits salamalek à base d'encens et de prières. Bon, donc je dirais, voyez, ce thème sur lequel se greffe dialogue, rencontre, etc., c'est prendre acte qu'il y a de l'autre. Et c'est absolument permanent. D'autre part, je dirais aussi que c'est pas seulement, puisque la Bible va se centrer peu à peu sur un peuple, le peuple de Dieu, c'est pas seulement le dialogue, on y viendra, ou la rencontre de Israël avec d'autres, c'est déjà en Israël, la question de la rencontre, de l'autre, du dialogue à faire, est urgente. Puisque vous le savez, à partir du premier livre des Rois, ce royaume de David et de Salomon va être séparé en deux. Il y a un royaume du nord autour de Samarie, qui est Naplouse aujourd'hui, et puis le royaume du sud, la Judée, avec Jérusalem comme capitale. Le royaume divisé. On est réunis ici, chrétiens, catholiques, protestants, peut-être encore d'autres dénominations ou d'autres religions. C'est quelque chose qui est inhérent au peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y faire et que, bon, on reste comme ça, mais ça veut dire que ça appelle un dialogue. Est-ce que le nord et le sud vont se parler? Est-ce que c'est Jérusalem qui a raison et puis le nord, ils ont qu'à se débrouiller? Est-ce qu'on aspire à retrouver la partie du peuple qui s'est séparée? Et je pense que la Bible pose incessamment cette question en disant elle n'est pas d'une entité bien connue avec des entités tout à fait extérieures. Là, il y a rencontre et dialogue. Non, non, à l'intérieur de ton propre groupe, dialogue et rencontre sont à l'ordre du jour, tout le temps. Vous savez, il y a une histoire un peu programmatique dans la Bible, dans la Genèse, c'est par exemple celle de Ésaü et Jacob, les jumeaux de Isaac et Rebecca, qui sont très différents. Ésaü, c'est le poilu du désert, et Jacob, c'est le glabre fils à maman, et ils sont très différents. Jacob, vous savez, obtient de manière pas catholique, si j'ose dire, le droit d'aînesse d'Ésaü, et il faudrait réfléchir là-dessus, et puis après la bénédiction qui va avec. Les deux garçons doivent se séparer, puisque Ésaü veut faire la peau de son frère quand il apprend qu'il lui a piqué sa bénédiction, et ils se séparent 20 ans. Ils se retrouvent enfin au bout de 20 ans, c'est Genèse 33, et c'est une très belle rencontre. D'abord, Jacob a rencontré Dieu lui-même, parce qu'il faut toujours rencontrer Dieu d'abord. Et après, c'est deux chapitres très, très beaux et très importants, Genèse 32, Genèse 33, où Jacob va dire à son frère Ésaü, « J'ai vu ton visage comme on voit le visage de Dieu. » C'est quand même étonnant. Voir Dieu, ça va encore. Voir son frère, compliqué. C'est un peu une histoire programmatique, vous savez. Dans les origines du christianisme, il y aura une grande discussion, un grand débat entre juifs et chrétiens, qui est le vrai Israël. Et les juifs diront, nous sommes le vrai, nous sommes Jacob, et les chrétiens c'est Ésaü. Et les chrétiens diront exactement l'inverse. Non, Jacob c'est nous, Ésaü c'est les juifs. Bon, donc que ça soit à l'interne ou puisqu'au début, dans les premiers siècles de notre ère, c'est presque une histoire de famille encore. C'est encore le même groupe. Juifs et chrétiens ne sont pas séparés de manière si forte. Voyez, la nécessité d'un questionnement. On est séparés, on s'est distingués, mais comment se retrouver, comment trouver des chemins, des tâtonnements? Et moi, je pense que les évangiles reviennent là-dessus tout le temps. Par exemple, donc j'ai dit tout à l'heure, Ésaü, quand il naît, vous savez, dans la Genèse 25, on dit Ésaü était, dès la naissance, comme couvert d'un manteau de poils. Et puis son frère est glabre, Jacob. Bon, c'est deux gars différents. Jacob, c'est avec maman, Rebecca. Ésaü, c'est je cours dans la steppe pour chasser. Si vous regardez le début des évangiles, vous verrez un poilu du désert et un fils à maman. C'est Jean-Baptiste et Jésus. Et tout ce qu'il est décrit dans Luc, mais aussi dans Matthieu et dans Marc, reprend des dizaines d'allusions à Jacob et Ésaü. C'est-à-dire, on ne se lasse pas de réhabiter les histoires compliquées et d'essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'un poilu du désert et un fils à maman, c'est définitivement séparé et puis ça ne marchera pas? Ben, on va le revivre incessamment pour essayer de trouver, de tâtonner, et ça serait très intéressant, c'est très intéressant d'étudier Jésus et Jean-Baptiste avec l'image de ces deux frères disparates. Hein. Bon, et ça serait là encore tout un... Voilà, donc ça veut dire on ne se résout pas dans la Bible aux séparations. Et on en prend acte et on ne fait pas comme si ça n'existait pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les habiter? Comment on va trouver des chemins? On ne sait pas trop comment. Quand Jacob et Ésaü se retrouvent, Genèse 33, c'est une belle scène de retrouvailles. Et puis Ésaü dit à Jacob, bon, ben maintenant viens avec moi. Et Jacob dit non, j'ai ma vie à faire avec Dieu, il faut rentrer en terre promise. Ésaü, lui, a trouvé un royaume en Édom. Et les deux se séparent, mais on s'est rencontrés. Ça veut dire le dialogue, la rencontre, ça ne va pas se faire comme ça, tout de suite, tac, je claque dans les mains et c'est bon, et ça se fait comme c'est beau, happy end, vous savez. Non, il faut se prendre quelquefois quelques siècles pour que quelque chose se fasse. Mais voilà, on est en chemin et on ne s'est pas résolu à une séparation définitive. Et la Bible, ça raconte des histoires comme ça qui sont quelquefois de très longue haleine. Quand Jésus rencontre le centurion romain, par exemple dans Luc 7 aussi, c'est une très belle scène. Vous savez, le centurion envoie, alors je ne sais plus si c'est dans Matthieu ou dans Luc, pour parler à Jésus, il ne vient pas lui-même, il envoie deux groupes, vous vous souvenez, au devant de lui, pour dire à Jésus, pour préparer Jésus, lui dire, il y a un type, un Romain qui... Et c'est exactement la scène de la rencontre de Jacob et d'Ésaü. Quand ils vont se rencontrer, Jacob n'ose pas aller vers son frère tout de suite. Il lui envoie deux groupes pour le préparer, l'amadouer un peu, avant de le rencontrer. Donc Jacob envoie vers Ésaü deux groupes. Et puis, vous savez, au temps de Jésus, les Romains, ils avaient un nom de code pour les Juifs. Les Juifs qui voulaient parler des Romains sans être compris par les Romains appelaient les Romains Ésaü ou son autre nom Édom. Donc vous disiez j'ai rencontré Édom, ça veut dire j'ai rencontré le Romain du coin. Donc, et c'est resté très longtemps dans le Talmud quand on dit Édom. Édom ça veut dire le roux, vous savez. Alors les Romains, quand on leur donne un nom romain, les Juifs leur donnent quelquefois un nom romain, c'est toujours le nom de Rufus qui veut dire roux, Édom en latin. Bon, donc Jacob a envoyé deux groupes vers Ésaü, son frère, Édom, et le centurion, réponse d'Édom à Jacob, au fils de Jacob, au descendant de Jacob, Jésus, lui envoie deux groupes. Vous voyez, bon, ça se fait, il faut quelques siècles hein, entre les deux. Et puis ça ne veut pas dire que parce que Jésus et le centurion se rencontrent vraiment, et Jésus admire ce centurion. Moi j'adore cette scène, c'est... On disait tout à l'heure, la Bible, ça fait pleurer. Oui, à chaque fois, ça me... Bon, parce qu'il admire ce type, et ça ne veut pas dire que tout s'arrange. Ça ne veut pas dire que oh, bah, désormais, avec les Romains, on se tape sur le dos en buvant des bières. Non, c'est... maintenant, il faut se prendre 6-7 siècles pour commencer à s'acclimater à cet empire romain. Mais ça ne va pas se faire comme ça, bien entendu. Mais... on est en chemin et on a ça comme but, comme ferment de notre action, se rencontrer, se trouver peu à peu. Je dirais aussi, donc, dialogue et rencontre, thème fondamental de la Bible, pas seulement avec les étrangers, mais chez soi d'abord, les séparations internes à vivre. Je dirais aussi... ça n'est pas dans la Bible une espèce d'évidence. Dans la Bible, il n'y a pas, et c'est ce que j'aime dans la Bible, des sortes de bonnes idées gentilles. Il faut être gentil et il faut faire de la rencontre et ça va être bien. Et en souriant, tout va s'arranger. Évidemment, non. Dans la Bible, c'est problématisé. Rencontrer, dialoguer, ce sont des choses, on emploie souvent ces mots, il faut les dire en tremblant, ces mots. Ça suppose tellement d'investissement, tellement de... Il y a tellement de choses qui nous échappent dans la rencontre et le dialogue que c'est pas simple. Et puis, tout ne peut pas être fait à tout moment. Dans la Bible, prenons un exemple. Israël, vous savez, c'est un tout petit peuple hein, au milieu d'empires gigantesques, l'empire assyrien ou babylonien, les phéniciens, les hittites, les égyptiens. C'est rien, Israël. C'est un canton minuscule. Donc déjà séparé lui-même entre deux royaumes, on vient de le dire. Mais Israël a souvent cette conscience de n'être pas grand-chose. Et il y a des époques dans l'histoire d'Israël où l'idée est vraiment de se recentrer sur soi. Par exemple, les livres d'Esdras et de Néhémie, on revient d'exil, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Donc Néhémie dit non. Plus de femmes étrangères en Israël, renvoyez vos femmes étrangères, épousez des Israélites, il faut qu'on se reforme, qu'on se regroupe. Et à la même époque qu'on écrit le livre de Néhémie, on écrit le livre de Ruth, qui raconte quoi ? Qui raconte qu'une étrangère, venue d'une des nations les plus détestées, les plus dangereuses de Moab, ça vient de Nombre 25, là, les filles de Moab ont séduit les Israélites et leur ont fourgué leur dieu en même temps qu'elles les ont enjolées. À la même époque, on écrit le livre de Ruth pour dire, oui, il faut renvoyer les étrangères, mais les étrangères font aussi partie, certaines d'entre elles ont fait partie pour le meilleur de notre peuple. Ruth, qui a fini par entrer donc, dans une famille israélite de Bethléem, donc dans le gratin hein, de la judéité, si on peut dire. Ruth, qui est la grand-mère du Messie David, l'arrière-grand-mère, ce qui est pas mal. Souvenez-vous-en aussi. Donc à la fois, il faut se recentrer sur soi, ethniquement, et à la fois se souvenir que c'est pas une solution définitive non plus, voyez. Donc ça veut dire que la Bible problématise ça, la rencontre, le dialogue, c'est pas évident et il y a quelquefois des impératifs d'une époque. Aujourd'hui c'est un petit peu difficile d'aller discuter par exemple en Irak avec les membres de l'État islamique, même si on faisait une soirée de dialogue, je pense qu'ils viendraient pas, ou ils viendraient mais ça serait encore plus ennuyeux parce qu'ils seraient armés. Bon, donc ça veut dire on va pas faire tout de suite et bien entendu, mais là encore, voyez, la Bible nous ramène toujours au réel hein, un principe de réalité, de réalisme, mais c'est ça qu'on veut faire, voyez. Et au moment où on rappelle la difficulté des conjoints étrangers, on raconte des histoires où, Dieu merci, des étrangers sont devenus, se sont alliés par mariage à Israël. Hein, il y a deux passages que j'aime beaucoup, c'est dans l'histoire de Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 7, au début du chapitre 7, Moïse dit « Pas de conjoint étranger en Israël ». Petit problème, il a une femme étrangère. Et là, la Bible commence. Voilà, c'est ça que j'appelle problématiser. C'est-à-dire, la loi et la réalité entrent en dialogue. C'est pas, il n'y a que la loi, ta femme étrangère, tu la largues. Non, c'est pas, tu fais ce que tu veux, finalement, la loi, on en prend, on en laisse, et surtout, on en laisse. Non, c'est pas ça non plus. C'est, là encore, la rencontre des deux. Comment la loi et la situation vécue vont dialoguer. Et elles vont dialoguer. Par exemple, pas de femme étrangère en Israël, dit Moïse. Qu'est-ce que c'est au fait qu'une étrangère ? Et si vous regardez dans la Bible, étranger, c'est un mot étrange, parce qu'on n'arrive jamais à le définir dans la Bible exactement. Et peu à peu, on s'aperçoit que le mot étranger, comme d'ailleurs tous les mots clés de la Bible, c'est avec Dieu, à partir de Dieu qu'on le définit. Et en fait, étranger, ça veut dire étranger à Dieu. Est-ce que la femme de Moïse est étrangère à Dieu? Pas du tout. Elle sait comment réagir à un moment difficile. En Exode 4, quand Dieu intervient, il faut circoncire le fils qu'on n'a pas circoncis. Et c'est Séphora, la femme de Moïse, qui le fait. Et elle appartient à une famille géniale. J'adore cette famille. Son père Jéthro, tout ça. Et elle a un frère aussi qui s'appelle Obab, qui est beaucoup plus fugitif, mais qui vaut aussi le détour. Donc, c'est une famille, oui, étrangère, madianite, mais pas étrangère à Dieu, pas étrangère à Moïse non plus. Le beau-père, le père de Séphora, comprend très bien son gendre Moïse, et l'aide même. Et donc, pas de femme étrangère en Israël, ça veut dire quoi? Vous voyez, là encore, au cœur de la Bible, et c'est incessant ça, la loi et la réalité dialoguent en permanence. Et il n'y a pas faut larguer l'un ou l'autre, non, il faut mettre ensemble les deux, et c'est compliqué et c'est pas confortable, mais c'est ça la vie de Dieu et la parole qui vit, hein. Et on pourrait donner 10 000 exemples. J'avais fait un cours là-dessus. On prend toutes les lois de Dieu, elles s'accompagnent régulièrement d'un récit qui montre comment, au nom de Dieu, on va pas tout à fait les appliquer. C'est quand même étonnant ça. Honore ton père et ta mère, dit Dieu. Et il ajoute, pas loin, quitte ton père et ta mère. Il faut faire quoi, chef? Il y a une certaine manière de les quitter qui les honore, peut-être. Et il faut voir comment. Et bien sûr, tout ça, il faut entrer dans le texte, et on ne résout pas ça avec 3 mots à l'emporte-pièce. Mais vous voyez, donc, on est toujours, il n'y a pas d'évidence dans le dialogue, dans la rencontre. Parce qu'il y a cette nécessité de problématiser c'est peut-être un grand mot, ça, problématiser, mais de prendre conscience que les choses ne trouvent pas de solution comme ça, là encore, en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Hein. Et la Bible, je pense, est un exercice permanent de ça. Hein, on pourrait en donner 1000 exemples. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, justement, sur la rencontre de la loi et de la réalité vécue où Dieu nous emmène. Hein, par exemple, dans le Deutéronome, on vous répète qu'il faut faire attention aux femmes, qu'il faut faire attention aux prostituées, qu'il faut faire attention aux étrangères. Livre suivant, ça commence où? Josué envoie 2 messagers pour repérer Jéricho, qu'on va prendre. Où loge-t-il? Chez une femme prostituée étrangère, Rahab. Et que dit Rahab? Elle dit, je connais votre Dieu, j'ai compris qui il était, je vais vous protéger, et tous ceux, vous me faites une promesse, je vous sauve la vie, je raconte un bobard à la police, je prends des risques, mais quand vous allez prendre la ville, tous ceux qui se réfugieront chez moi, dans ma maison, vous les laisserez en vie. Et l'accord est fait, et c'est ce qui se passe au chapitre 6 de Josué. Vous savez que les pères de l'Église, à commencer par saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, voit dans la maison de Rahab, la prostituée étrangère de Jéricho, la plus grande figure de l'Église de l'Ancien Testament. C'est-à-dire cette maison où le tout-venant se rassemble pour avoir le salut. Bon, et il dit, à la fin des livres historiques, le temple de Jérusalem s'écroule, seule la maison de Rahab reste debout dans toute cette histoire. C'est l'Église. Bon, pas mal. Vous voyez, quand on connaît la tradition, la vraie tradition, elle est beaucoup plus intéressante, innovante et décoiffante que ce qu'on essaie de nous dire qu'elle est. Bon, alors là-dessus, il faudrait dire 10 000 choses. Je voudrais... j'ai encore 10 minutes, hein, je crois. Oui. Bon, un quart d'heure. Oh, c'est bizarre. Donc, j'aurais beaucoup de choses, mais je voudrais encore aboutir à parler d'un point que j'ai évoqué dans l'introduction, c'est ce mouvement continuel de reprise que fait la Bible des récits, des images, des peuples qui l'entourent. C'est quelque chose de très délicat à étudier et à admettre peut-être. Mais la Bible le fait avec une science très complexe, très compétente, parce que la Bible ne fait pas de syncrétisme, on ne reprend pas comme ça, tel quel, les récits et les dieux étrangers, puis on les intègre. on reprend tout en dialoguant avec. Et c'est ça un dialogue. Un dialogue, c'est quand on prend au sérieux le mot dialogue, c'est vraiment il y a deux ou plus qui il n'est pas question que qu'on renonce à ce qui fait qu'on est celui qu'on est, bien entendu. Et en même temps, il s'agit d'arriver à autre chose, de découvrir en soi des possibilités, une vérité nouvelle qui demande à émerger. Et la Bible fait ça. Elle va reprendre, et c'est très audacieux, beaucoup de mythes, d'histoires, d'images étonnantes à des peuples. Je parlais tout à l'heure en introduction du déluge, du jardin magnifique, des commencements, tout ça, ça on pourrait... Le Sheol, le monde des morts, bon, c'est mésopotamien, ça c'est la descente aux enfers, c'est un des plus vieux récits de l'humanité qui nous est raconté en sumérien, donc un texte qui a 45 siècles encore, il a passé la barre des 40 siècles, c'est bon. Je voudrais donner des exemples dans le Nouveau Testament. J'ai dit tout à l'heure que le Nouveau Testament, avec un petit exemple dans Saint-Luc, n'arrête pas de continue cela, et je dirais plus que jamais. C'est-à-dire le Christ qui ressuscite, il accomplit tout. Pas seulement les deux, trois textes d'Ancien Testament avec des gens respectables, tout. Il reprend tout l'Ancien Testament avec ce qui est respectable et ce qui l'est moins. Et puis il reprend aussi tout cet Ancien Testament qui est lui-même l'écho et qui se met à l'école des mythes anciens, des récits anciens. Vous voyez, quand on dit que le Christ récapitule le début de la lettre aux Éphésiens, qui insiste là-dessus, la lettre aux Romains aussi, ça veut dire qu'il récapitule toute l'histoire dont la portion d'humanité où il est venu est porteuse. Je vous donne un exemple. Les Actes des Apôtres, ça c'est un bon laboratoire, un bon texte pour expérimenter cela et puis apprendre à le vivre soi-même. Quand Paul part en Grèce, vous savez, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, Actes 16. Donc Paul, qui est de Tarse, donc l'Asie mineure, il continue après avoir rencontré le Christ ou après que le Christ l'a rencontré, il continue à faire il a des projets apostoliques pour cette portion du monde, l'Asie mineure, et des trucs qui ont l'air bien, enfin il sait fagoter les trucs, il a des projets apostoliques et il n'arrête pas de nous dire mais l'esprit de Jésus s'y opposait, mais l'esprit nous barrait le chemin. Alors on dit c'est quand même dommage, là un gars qui sait faire de l'apostolat, qui met sur pied des aumôneries, des tout ce que vous voulez, et l'esprit du Seigneur est non, il dit non. Vous savez, un jour, Paul, dans un songe, entend un Macédonien, donc un Grec, qui l'appelle, et il décide de partir. Et on se dit, c'est quand même dingue. Il est d'Asie mineure, il connaît le contexte, il connaît le pays, il est génial, il est actif, laissons-le là, c'est là qu'il doit aller. Non, il est envoyé vers l'ouest, et toujours plus à l'ouest, hein, comme le professeur Tournesol, la Grèce, puis après Rome. Et où s'embarque-t-il pour aller en Grèce? Acte 16, ça c'est beau. Il s'embarque à Troas. Et qu'est-ce que c'est que Troas? C'est Troie, c'est la ville de Troie, la vieille ville dont parle Homère dans l'Iliade. Et Troie qui tombe sous les coups des Grecs. Et vous savez, il y a deux grands récits qui vont émaner de cela. C'est l'Odyssée, le roi d'Ithaque, le roi grec qui a contribué à conquérir Troie, qui part de Troie et qui va mettre 10 ans à retrouver son royaume d'Ithaque, c'est l'Odyssée. Et puis, il y a une autre histoire beaucoup plus tardive, en latin, à Rome, c'est Virgile, grand poète latin, immense poète latin du 1er siècle avant notre ère, qui va écrire l'Énéide. L'Énéide, c'est le récit d'un prince troyen, la race des vaincus, qui s'embarque de Troie et qui va arriver en Italie. Et en Italie, un de ses descendants fondera Rome. Ben, si vous lisez les Actes des Apôtres à partir du chapitre 16, vous verrez à tout moment des allusions à Homère et des allusions à Virgile. Quelquefois, vous pouvez faire un pèlerinage sur les pas de Saint Paul. Il ne faut pas oublier que Saint Paul a fait un pèlerinage sur les pas d'Ulysse. que quand vous avez Paul, vous avez aussi Ulysse derrière et Énée. Vous avez trois pour le prix d'un. Ça veut dire que les actes des apôtres sont construits. Ça a été bien travaillé aujourd'hui. Il y a quelques années, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, c'est une évidence. Quand on voit les textes, la structure des textes, les noms de villes, il y a même un gars dans les actes qui s'appelle Énée. On ne peut pas faire plus clair d'une certaine manière. Et voyez, ça veut dire que envoyé dans un apostolat dans ce monde nouveau pour lui, la Grèce, Rome, eh bien, Paul épouse la culture dans laquelle il va s'immerger. Est-ce que ça veut dire qu'il reprend tout, il est syncrétiste? Pas du tout. Paul, c'est un type qui a quand même 3-4 neurones qui fonctionnent, qui a du jugement et qui, bien entendu, pour lui, c'est le Christ, comme il le dit dans ses lettres, évidemment, qui est au centre. Et il ne faut pas tout mélanger. Mais justement, il y a une manière de mélanger les choses qui est terrible. Mais il y a une manière de ne pas tout mélanger qui suppose un dialogue et une rencontre avec la culture dans laquelle on est envoyé. Et je dirais qui se fait à base d'hommage envers cette culture. Les actes des apôtres rendent hommage à ces récits qui l'ont précédé. L'Odyssée d'Homère, qui est un livre admirable, qui a à toute page d'ailleurs, il y a plein de choses qui rappellent l'Ancien Testament, même s'il n'y a pas de rapport de filiation immédiat. Et puis Virgile, le monde latin, et Paul qui va arriver à Rome. Et vous savez, dans le dernier chapitre des Actes des Apôtres, partant de Malte après une tempête, Paul s'embarque dans un bateau à l'enseigne des Dioscures. Les Dioscures, vous savez, c'est Castor et Pollux. Ces deux frères, Castor, comme son nom l'indique, c'est le poilu, et Pollux, c'est le grand, le noble, donc deux frères disparates de la religion grecque et latine, qui ressemblent beaucoup à Jacob et Ésaü, et qui ressemblent à bien d'autres binômes comme ça dans l'Orient ancien. L'enseigne des Dioscures, le bateau. Les Dioscures, c'est les deux frères. Et Paul, qui est prisonnier, on l'emmène à Rome pour le juger, et c'est là qu'il va commencer à prêcher, il est lié à un gardien romain. Donc, dans un bateau qui est placé sous l'enseigne de deux dieux jumeaux, Paul a son jumeau avec lui qui ne le quitte plus, ils sont ligotés l'un à l'autre et en quelque sorte il part lié à ce monde latin vers lequel est grec, vers lequel il est envoyé. Je voudrais vous évoquer dans les quelques minutes qui restent, mais bon tant pis, on parlera après avec des questions et on reviendra sur certaines choses. Je voudrais vous évoquer quelques personnages. J'ai parlé tout à l'heure de Moïse et de Ruth. Moïse, pas de femme étrangère, mais il en a une. Ruth, femme étrangère de Moab, qui entre dans la tribu de Juda et épouse Boaz, une tribu marquée par la mort de tous les hommes. Donc, et Ruth va être enceinte d'un petit garçon, Obed, qui est le grand-père de David. Vous voyez, on pourrait dire Ruth et Boaz, bon, ça va pour une fois, pas de femme étrangère, ok, Ruth, elle a eu ses papiers, bon, sa naturalisation, ok, et elle s'est convertie au vrai Dieu, bon, alors c'est bon, mais faites pas trop parler de vous. Eh bien, cette histoire qui pourrait être périphérique arrive au centre, puisque Ruth et Boaz vont engendrer le Messie à venir, David, et plus lointainement, le Christ, comme la généalogie de Matthieu nous le dit. Et je voudrais dire justement un petit mot sur David en conclusion. Parce que David, donc le Messie d'Israël, c'est-à-dire il reçoit l'onction, vous savez, donc, et le titre de roi et de Messie. Donc après Saül, il y a David. Et David, c'est un personnage tout à fait intéressant. Parce que Messie et roi d'Israël, on pourrait se dire, ce gars va vraiment défendre son pays, défendre ses frontières, un seul peuple, un seul empire, un seul roi, un seul Dieu. David, ça va être un, comme on dirait chez les catholiques français, il va sauver la France au nom du Sacré-Cœur. Or, quand vous regardez l'histoire de David, c'est une histoire étonnante. D'abord, il est de la tribu sans doute la plus métissée des 12 tribus. Hein, donc la grand-mère, c'est une Moabite, une Jordanienne, Ruth. Bon, c'est un peu embêtant. Nombre 25, il est dit, faut pas épouser de femmes étrangères. Mais alors des filles de Moab, jamais, au grand jamais en Israël. Donc on est sûr qu'il y en a une qui va arriver un jour et qui va. Bon. Et puis aux origines de la tribu, c'est Genèse 38. Donc le grand ancêtre Judas qui a fondé cette tribu, il a épousé une Cananéenne. Alors que ses ascendants, Jacob par exemple, avait épousé sa cousine Rachel, tout ça c'est la descendance d'Abraham. Judas, il a épousé une Cananéenne, donc une tribu métissée dès le début. Et dans cette tribu de Judas, on l'apprend en particulier dans le livre de Josué au chapitre 14, il y a un grand groupe étranger à l'intérieur, complètement étranger, un groupe issu des frères ennemis, Édom. C'est Caleb. Caleb et son clan sont intégrés dans la tribu de Juda et on se dit c'est un peu bizarre quand même. Bon. Donc David est issu de métissage, ce que nous raconte la généalogie de Matthieu. Hein, Juda, alors il ne rappelle pas le nom de sa femme, mais c'est une Cananéenne. Pour Matthieu, vous savez, Matthieu 1,5, la Mirable, la prostituée de Jéricho, elle est intégrée dans la tribu de Juda. C'est même la mère de Boaz qui épouse aussi une étrangère. Il y a vraiment un syndrome dans cette famille, hein, du métissage. Donc David, c'est le Messie. Le mot Messie, le mot métis, ça se ressemble en français et c'est étonnant parce que David répond tout à fait à ça. C'est un métis. Pourquoi ne pas avoir choisi un ressortissant d'Israël aux origines pures? Et puis, quand vous regardez son histoire, c'est quand même étonnant. Quand il prend Jérusalem, ça se passe tard, hein, 2 Samuel 5, on nous dit, c'est le verset 10 et 11, alors quand le roi de Tyr, le roi de Phénicie, c'est-à-dire du Liban, le Libanais de service au nord d'Israël, quand le roi de Tyr voit que David a pris Jérusalem, il lui envoie des ouvriers, des matériaux pour se construire une maison, un palais royal. Alors on dit c'est quand même un petit peu étonnant. David prend Jérusalem. Bon, ben maintenant, c'est Jérusalem, c'est judéo-juif, et on... Non, le palais du roi est bâti, est financé, sponsorisé par le voisin libanais au nord. Mais il n'est pas vraiment de la foi d'Israël. Non, pas vraiment, non, pas du tout même. Mais voilà. Et même le fils de David, vous savez, Salomon, un roi 5, va écrire à ce même roi au nord, le roi Tyr, pour qu'il envoie des cèdres pour construire le temple. Pour construire un temple, prenons des matériaux de chez nous, hein, l'estampille made at home. Le temple porte la marque des étrangers. Et puis, continuons. Vous savez que David va être assez rapidement en exil parce que son fils Absalom prend le pouvoir. Donc David part et va de l'autre côté du Jourdain. Et puis après la mort d'Absalom, il revient, il reprend possession de son trône. Mais quand il part en exil, donc il est à Jérusalem, il apprend qu'Absalom, son fils, a pris le pouvoir, il part, il va dans le Mont des Oliviers, le Cédron, tous les lieux qui affleurent dans les récits évangéliques, notamment de Matthieu, et qui sont bien sûr, le récit de la passion de Gethsémani, c'est en contrepoint, évidemment, de l'exil de David. Et David, plus personne ne le soutient. Tout le monde, ou une grande partie d'Israël, s'est rallié à son fils Absalom. Vous voyez, un Messie, c'est pas facile. Hein. Et quand David va quitter Jérusalem, il s'aperçoit que derrière lui, il y a un contingent de 600 Philistins. Pourquoi sont-ils là? Parce que David... Donc avant d'accéder au pouvoir, vous savez, était poursuivi par le roi Saül, le roi d'Israël, qui jalousait tellement David qu'il voulait le tuer. David a dû fuir avec quelques hommes pendant des années. C'est une période très troublée premier livre de Samuel, à partir de 1 Samuel 19, fuite de David, jusqu'à la fin du premier livre de Samuel. Et David, à un moment, est allé se réfugier chez les Philistins. C'est fou, puisque vous savez que l'ennemi naturel de l'Israël royal, ce sont les Philistins. Ils habitent la plaine côtière, au bord de la Méditerranée. C'est presque des ennemis de l'intérieur, et ils sont des ennemis récurrents. Donc David combat les Philistins, il a tué Goliath le Philistin, c'est son premier coup d'éclat, qui était de la ville de Gath. Et il n'empêche que, quand il est poursuivi par Saül et son propre peuple, le peuple d'Israël poursuit David qui se cache, qui s'enfuit, l'endroit qui lui paraît le plus sécuritaire ou sécurisé, c'est les Philistins et de la ville de Gath, dont il a tué le champion Goliath. C'est le monde à l'envers. Il fait d'abord un premier stage, et puis il sent que ça n'a pas l'air d'être une bonne idée quand même, ça fait un peu bizarre, que cet aspirant à devenir roi d'Israël qui a combattu Goliath de Gath aille se réfugier à Gath. Mais finalement, quelques années après, il retourne à Gath, et le roi des Philistins et lui, il y a une rencontre qui se fait. Le roi des Philistins, Achish, lui dit « Bon, je te donne mon garde du corps personnel. » Et il reste 16 mois chez les Philistins, immergé en plein territoire ennemi. Et puis au bout de 16 mois, les généraux philistins disent au roi Achish « Écoute, David, avec ses hommes, si jamais le roi Saül nous fait la guerre, et pour qui il va tenir ? Pour nous ? Il va tuer ses frères judéens ? Ou bien alors il va se retourner contre nous et nous prendre en tenaille. » Et le roi des Philistins dit à David, « Bon, il faut que tu parles, j'ai rien contre toi. » Mais il dit même, en public, « Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation. » C'est exactement la parole de Pilate, qui tous ces récits sont bien sûr, la passion, c'est du démarquage de tout cela. Donc David va finalement échapper, devenir roi après la mort de Saül. Et partant en exil, quand il se retourne, il voit ces 600 Philistins et il leur dit mais il ne faut pas rester là, aux dernières nouvelles, on est plutôt ennemis. Et leur capitaine, Ittai, lui dit non, on sait qui tu es. Tu es resté chez nous pendant des mois. On a compris qui tu es et on a envie de te suivre, toi. Et David dit, mais je vais devoir partir à l'étranger. Ouais, on veut te suivre. Et vous voyez, où est le royaume de David ? Quelles sont les frontières du royaume de David ? Ben, quand vous finissez le livre de Samuel, c'est beaucoup moins clair qu'au début. C'est-à-dire, le Messie, où est son royaume ? Et en Israël, oui, mais les Philistins, les ennemis, oui, un peu aussi, là. Puis la grand-mère de Moab. Oui, un petit peu aussi. Et puis les Cananéens, oui, aussi un petit peu, oui, oui. Et vous savez, le dernier chapitre des livres de Samuel, de Samuel 24, c'est une peste à Jérusalem, à l'issue, enfin, qui suit le recensement de David. C'est toute une histoire. Et David, pour apaiser Dieu, fait des sacrifices, mais il lui faut un autel et un lieu à consacrer. Alors il va acheter cet autel sur un lopin de terre d'un Jébuséen. Les Jébuséens, c'est les païens, les sales païens, qui habitaient Jérusalem avant qu'il la conquière. Donc aussi des gens à qui il a fait la guerre, David, pour leur prendre cette ville de Jérusalem. Et le Jébuséen lui donne un lopin de terre, lui donne son aire en disant « Prends-la ». David finit par l'acheter quand même. Mais vous voyez qu'à tout moment, les étrangers sont comme pétris dans le destin de David. Le Messie porte avec lui des éléments, mais le mot est trop triste, porte avec lui des personnes, des destins complètement hétérogènes à lui. On pourrait dire vraiment, je le disais au début, le roi d'Israël, il va nous rassembler, purifier la race, avoir Ein Reich et Ein Führer. Et non, c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, on dirait qu'il vient encore causer encore beaucoup plus de troubles aux frontières qu'il n'y en avait. Et je pense que cette réalité du Messie que Jésus va assumer complètement, Jésus fils de David, vous savez, dans l'évangile de Marc, la première citation que Jésus fait de l'Ancien Testament, Marc 2, 25 et suivant, il dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David ? Allez voir David pour comprendre ce qu'est un Messie. » C'est quelqu'un qui est toujours dans des rencontres improbables, dans des dialogues avec des gens qu'on n'aurait pas imaginé, être le garde du corps et l'ami finalement du roi des Philistins, bizarre quand même, étrange, avoir pour le soutenir 600 Philistins alors que son propre peuple se rebelle, enfin le dépossède du pouvoir, étonnant. Hein. Donc je pense que, voyez, dès l'Ancien Testament, toutes ces questions sont abordées, que le Nouveau Testament et la figure du Christ, bien sûr, va mettre toutes ces questions au centre, cette nécessité de la rencontre et du dialogue, parce que finalement, on y a toujours été acculé à ça, depuis toujours. Et donc maintenant, il va falloir le faire pour, comme dira la lettre aux Éphésiens, essayer de faire tomber le mur de la haine qui nous sépare. Et quand vous lisez Paul, hein, dans les lettres de Paul qui parle de la loi et de la grâce, tout ça, il me semble que Paul n'arrête pas en fait de se nourrir et de découvrir lui-même cette richesse de l'Ancien Testament qui fait dialoguer l'Ancien et le Nouveau, qui fait dialoguer la foi juive et les peuples étrangers, Paul qui va partir en Grèce, qui fait dialoguer la loi et le réel, ou en termes plus pauliniens, la loi et la grâce. Et je pense que notre foi chrétienne et notre expérience de chrétien, c'est exactement dans ce terreau-là qu'elle s'enracine. Voilà. Merci de votre attention. Alors, il y a un micro qui... Oui, mais à 2h du matin, on arrête, hein. Ça, c'est clair, hein, pour tous.
Est-ce qu'il peut s'enlever le micro si éventuellement les gens...
Ah, il est là,
d'accord, ça va.
Pendant que les questions viennent à maturation, Philippe, en vous écoutant, vous parliez de ce déplacement de frontières, aussi bien par David qu'après par Jésus, et me venait l'épisode de Jésus et de la Samaritaine. Quand la Samaritaine lui demande est-ce que c'est une tentative de réconciliation du royaume du Nord et du royaume du Sud, je ne sais pas.
Exactement. Oui.
Mais faut-il se tourner vers le mont Garizim ou vers Jérusalem? Et là, finalement, Jésus a une réponse où il va déplacer... Il fait sauter les frontières. Il dit, mais ni là, ni ailleurs. C'est, en fait, ce sera en vérité, en esprit, en vérité. Je trouve que là, de la part de Jésus, il y a une manière de répondre. Si vous avez d'autres
oui,
exemples...
Oui. Non, mais c'est très juste. Je voulais l'évoquer tout à l'heure. Le royaume du Nord, évidemment, c'est les Samaritains, avec toute la difficulté hein, de la relation des Juifs et des Samaritains. Il y a beaucoup d'études en ce moment, d'ailleurs, sur qui sont ces Samaritains exactement. Est-ce que c'est des étrangers complets ou est-ce que c'est des vieux Juifs d'une obédience ancienne, etc. Peu importe. En tout cas, Jésus, le Judéen, qui part au Nord, dans le royaume du Nord, en Samarie, évidemment qu'il est en train de revisiter un vieux désaccord, une vieille rancune, et en plus une femme. Vous voyez, Jésus, c'est toujours... Et ça, dans la Bible, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, quand on trouve une situation difficile, on vous dit dans la Bible, elle est beaucoup plus difficile encore que tu ne penses. Par exemple, les étrangers sont toujours beaucoup plus étrangers. Jésus rencontra une syrophénicienne grecque. C'est bon, voilà. Hein. Syro, on pourrait encore dire. Phénicienne, bon, ça pourrait... grec. Mais les trois en même temps, alors là, pouf, tu fais exploser le box-office, elle est irrécupérable. Parfait, excellent. Donc, Donc cette Samaritaine, c'est un peu ça. Et en plus, une femme, on ne sait pas trop quelle est sa vie, hein, pourquoi tant de maris. On ne sait pas, à vrai dire. On dit c'est une femme légère. Elle est peut-être soumise à la loi du Lévirat, hein, qui obligeait une femme à épouser tous les hommes d'une famille tant qu'elle n'avait pas enfanté de l'un d'eux. Je pense en effet qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation. C'est des gestes très forts. Hein, ça. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, vous allez faire les courses, parce qu'ils ont répété les plombs rapidement. Donc ils viennent quand le dialogue se termine, et d'ailleurs ils ne comprennent pas, et Jésus leur dit, tiens, on t'apporte à manger ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, et les disciples, voilà. Et la Samaritaine, elle a pigé, d'ailleurs. Donc, oui, il y a des placements de frontières de ce Jésus qui, juste avant, enfin, c'était au chapitre, là on est au chapitre 4, mais c'était au chapitre 2, quand il est allé à Jérusalem, est-ce qu'il faut adorer au mont Garizim chez les Samaritains à Jérusalem ? Jésus a dit aussi sur le temple une parole forte, détruisez-le en 3 jours, détruisez-le et en 3 jours je vais le relever. Et il parlait du temple de son corps. Et là encore, il se situe dans un vieux, une vieille histoire de l'Ancien Testament où un temple en désigne toujours un autre. C'est-à-dire quand vous avez un temple, il n'est jamais tout à fait définitif. Même quand Salomon construit le temple, premier livre des rois au chapitre 6, au chapitre suivant, excusez-moi, j'ai un appel que je vais tout de suite arrêter. Au chapitre suivant, 1 roi 7, il construit une maison, et on ne sait pas du tout à quoi elle sert, qui s'appelle la maison de la forêt du Liban. Les cèdres du Liban qu'il est allé chercher chez son collègue roi phénicien, le roi de Tyr, ils servent à construire la gigantesque maison de la forêt du Liban, qui a tout à fait une allure de temple. Elle a des mesures de temple, et on a l'impression qu'il a construit le temple de Jérusalem. Mais juste à côté, il y a un autre temple qui n'a pas encore dit son nom. Mais le vrai temple est toujours à côté. Un temple, ça ne suffit pas. Il est déjà en train de désigner un autre. Quand Jésus parle du temple de Jérusalem, il parle du temple de son corps. Le temple de Jérusalem, ce n'est pas que ce n'est pas bien, etc. Mais déjà, il en désigne un autre qui est Jésus. Donc c'est Jésus temple, Jésus sanctuaire qui est en train de parler à la Samaritaine et dire le sanctuaire, ben, ça a à voir avec mon corps et avec le corps en général. Ce que saint Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'esprit, chacun est en communauté, voyez. Donc ces dialogues improbables, c'est pas Jésus, c'est plein de trucs et c'est lui qui a raison, puis il va être gentil avec cette Samaritaine qui est un peu... Non, c'est un moment de révélation où des vraies questions très anciennes, ancestrales, sont enfin posées et on en dit quelque chose de d'essentiel. Voilà.
Mais très très intéressant ce dialogue avec les cultures, mais on reste quand même dans notre bassin méditerranéen, on tapote dans le même bain, hein, et nous ça me parle bien. Mais quel dialogue et quelle rencontre avec par exemple tout l'Orient, hein? Qu'est-ce qui se passait en Chine 45 siècles avant? Est-ce que vraiment les premiers textes écrits sont des bassins méditerranéens? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Et puis, nous, maintenant, quel est le dialogue possible avec ces cultures là, qui sont quand même beaucoup plus étrangères?
Oui, vous avez raison. Alors, il faut bien commencer quelque part. C'est-à-dire, le monde biblique, c'est quand même une immense zone géographique. Hein. À l'époque de Jésus, il y avait ces... Et avant lui, il y a eu ces immenses empires. L'empire perse, c'était du nord de l'Inde jusqu'en Macédoine, jusqu'en Grèce balkanique. Donc, on brassait quand même beaucoup de choses. Hein. Dans la Bible, on parle de l'Éthiopie, de l'Ouest méditerranéen. Bon, il y a déjà une grande zone qu'on commence à connaître maintenant, parce que on trouve par exemple des objets indiens au Danemark, deuxième millénaire avant notre ère. Il y a des routes de communication, donc c'est un monde quand même brassé. Et je dirais, dans la perspective biblique, ce petit bouquin et puis ce petit peuple, il se fait l'écho déjà de beaucoup de choses, d'énormément de choses. Alors, je pense que, comme je le disais au début, la Bible ne donne pas solution, mais elle donne une certaine manière, un certain regard, une certaine manière d'être au monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine ? On va faire comme Paul avec la Grèce, on va y aller. Et on va s'immerger, et puis on va apprendre, et puis on va voir qu'il y a des choses stupéfiantes. Une des choses étonnantes, vous savez, c'est qui surprend, je pense, beaucoup d'Asiatiques, c'est dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de mot absolument pour dire christianisme, mais on appelle la voie, le Tao. Le Tao de Chine, alors c'est sans doute pas la même chose, mais qu'une sagesse vivifiante s'appelle le chemin, la voie, dans les Actes des Apôtres, et ça s'enracine bien entendu dans l'Ancien Testament, hein, le mot voie dans les livres, le chemin, c'est le mot le plus employé dans le livre des Proverbes, donc la sagesse c'est une voie, que ça puisse faire écho avec l'enseignement traditionnel de la Chine, sans doute il faut creuser ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses qui se font en dialogue comme ça. Il y a un étudiant chinois de Fribourg qui a fait une petite thèse. Maintenant, il a toute sa vie pour la déployer, mais sur la relation maître-disciple dans la Bible, Élie-Élisée surtout. Et la tradition chinoise du maître et du disciple. Alors ça demande beaucoup. J'ai eu un étudiant il y a un an et demi qui était un indien, un religieux indien catholique. Alors ça s'est fait en co-tutelle avec un prof indien que j'avais rencontré. Sa thèse, c'était montrer que les techniques d'écriture et la philosophie de l'écriture de l'Inde ancienne, donc tous ces immenses écrits, Bhagavad Gita, tout ça, pour eux, la Bible, c'est pas grand-chose. Le moindre écrit fait 5 fois la Bible, donc, et il y en a des dizaines. Donc il m'a dit, non, ça pose pas de problème, là. J'ai dit, c'est un peu gros. Non, pas tellement. Bon. Alors, il a fait comment les techniques d'écriture et la philosophie de l'écriture de l'Inde ancienne, si on les applique au récit biblique, ça fait quoi ? Donc avec l'idée qu'une manière d'écrire ancienne est peut-être plus apte à rendre compte d'un texte ancien comme la Bible que nous aujourd'hui, modernes, qui avec tous nos concepts modernes, nous intéressons à un texte ancien. Voilà. Bon. Et il a fait une thèse, c'était tout à fait remarquable, où il a trouvé des choses, il a fait surgir du texte des choses qu'on ne voyait pas. Et pour lui qui était absolument évidente, par exemple le cantique d'Anne, 1 Samuel 2, dans l'exégèse moderne depuis quelques décennies, on dit ben, c'est un cantique plaqué, c'est un cantique qui devait avoir cours comme ça, puis on l'a mis dans la bouche d'Anne à ce moment-là, et puis ça a des rapports avec l'histoire racontée autour mais pas entièrement, donc ça passe pour une interruption du récit. Et alors lui ne savait pas tout ça, il m'a dit, là je retrouve quelque chose en Inde, quand on commence un récit et on sent qu'une parole vient de Dieu, alors il faut arrêter et chanter quelque chose qui va ressaisir tous les éléments du récit pour leur donner la puissance du verbe. Alors il a fait tout un chapitre là-dessus, c'est le plus remarquable chapitre de sa thèse. Puis après, je lui ai dit, mais il faut lire un peu quand même les auteurs modernes en anglais, ou il fait sa thèse en anglais. Et il a lu, il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, mais regardez ce qu'ils écrivent, que c'est plaqué, que c'est... Mais pas du tout, regardez ça. Ah oui, mais tu as raison. Donc, je pense que le champ est ouvert. Maintenant, on a quelques milliers d'années devant nous pour explorer un peu, montrer comment... là, j'ai un étudiant malgache en ce moment qui finit une thèse sur les rites funéraires dans son coin... éclairé par la Bible, comment la Bible hérite de rites funéraires mais les transforme peu à peu, et il me dit comment nous on hérite de rites ancestraux et comment ils peuvent être transformés, pas anéantis, pas annulés, mais transformés comme la Bible le fait. Bon, alors je pense que là, la Bible montre, je pense, sa fécondité. Elle est à la fois très enracinée dans tout un milieu qui est quand même varié. Elle réfléchit là-dessus, c'est-à-dire elle montre qu'il y a une manière d'accueillir des cultures et de montrer ce dont elles sont déjà porteuses et qui n'est pas si loin de ce que Dieu dit. Et je pense que ça, c'est une manière qui nous est donnée. C'est difficile, c'est dangereux, c'est compliqué, c'est, voilà, ça s'appelle la vie. Vous êtes timide.
Philippe, j'ai encore une petite question.
Oui, oui.
Biblique. Dans la Genèse, on a Abraham, il y a des rencontres, bien sûr, il y a des
rencontres,
il y a des galons, mais il y a aussi des séparations. Abraham et Lot vont finir par se séparer. Abraham va faire quand même un effort très très important, puisqu'il voit le pays où coule le miel. Et il va le donner à l'autre et lui va rester sur les terres arides. Comment se résout cette séparation?
Alors c'est bien de lire justement la Bible au long cours, parce que ceux qui sont séparés, on va nécessairement en reparler un jour ou l'autre, pas d'eux spécialement, mais de leurs descendants. Et la Bible, j'avais un jour intitulé un cours, mais on m'a demandé de le changer parce que ce n'était pas assez académique. Ça s'appelait « Perdu de vue », qui, je crois, est une émission en France. Parce que dans la Bible, il y a souvent ce phénomène. On perd des gens de vue parce qu'on se sépare pour X raisons, qui sont parfois tout à fait valables, parce qu'il faut aussi se séparer, etc. Mais c'est jamais complètement définitif. Et ce qui est intéressant dans la Bible, c'est de voir comment il y a des résurgences, comment ressurgissent ceux qui sont séparés, leurs descendants, bien après, et comment finalement on ne les a pas complètement perdus. Alors, Lot, hein, avec ses filles, vous savez, donc c'est une famille assez incestueuse, celle d'Abraham. Abraham a épousé sa demi-sœur, son neveu Lot. Vous savez que ses filles vont coucher avec lui parce qu'elles ont perdu leur fiancé pour avoir une descendance. Et Lot, avec ses filles, va engendrer des enfants qui sont à l'origine de deux races, de deux ethnies, hein, autour d'Israël, Moab, les Moabites, et les Ammonites, qui sont à la fois les ennemis d'Israël et pas seulement. Ruth, la Moabite, est la Jordanienne, c'est une descendante de Lot. Finalement, c'est la famille d'Abraham. Comme on se retrouve. De même, vous savez qu'Abraham, après la mort de Sarah, donc c'est au début du chapitre 25, épouse Ketoura. Et avec Ketoura, il a un certain nombre d'enfants qui sont à l'origine d'un certain nombre de peuples. Par exemple, Madian, Moïse, se réfugiant en Madian, va épouser Séphora la Madianite, dont le père est un prêtre madianite, donc pas vraiment israélite, c'est moins qu'on puisse dire, mais quand même, il y a une petite ascendance. Tout ça est peut-être reconstruit, tout ça, mais ça veut dire on a conscience que les gens qu'on croise, il y a de toute façon... Il faut revenir sur notre séparation, qu'elle ait eu lieu pour toutes sortes de raisons, pour des raisons de géopolitique. il y a dans la Bible ce mouvement. Attention aux peuples étrangers, parce qu'ils peuvent vous fourguer leur Dieu et vous allez faire un méli-mélo avec ça invraisemblable. Mais en même temps, allez vers les peuples étrangers, parce que nous sommes tous frères. Enfin, c'est presque banal de dire ça, mais nous descendons tous des mêmes ancêtres, etc. Et même quand on n'en descend pas, en fait, on est parents. Je vous cite une petite histoire, c'est dans le chapitre 38 du livre de Jérémie. Donc, vous savez que Jérémie, ça ne marche pas très bien, sa prédication, parce que tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut se laisser déporter à Babylone, et là, ça sera le salut pour nous, parce qu'on aura tout perdu, donc il n'y aura plus que Dieu. Jérémie 29, donc on va renouer avec Dieu, etc. Évidemment, tout ça ne plaît pas beaucoup à ses contemporains. Et à un moment, on décide, les grands du royaume décident de prendre Jérémie, de dire au roi, il démoralise tout le monde. Donc on le met au trou, au sens propre, à une citerne sèche. Et personne ne trouve rien à y redire. Il y a un seul personnage qui dit on ne peut pas faire ça au prophète, et qui, dès qu'il parle de Jérémie, ajoute le prophète. C'est le seul d'ailleurs qui le désigne ainsi. C'est Ebed-Meller. Ebed-Meller, c'est un Éthiopien, un eunuque éthiopien. Donc il n'a rien pour lui. Il est étranger, il est eunuque, il est éthiopien, il n'est pas donc de la foi d'Israël. Et il va trouver le roi en disant, et c'est vraiment risqué, enfin un subalterne comme ça, enfin de quoi se mêle-t-il, pour dire on ne peut pas faire ça à un prophète. Et puis le roi, qui à l'époque un type, une girouette, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison pour ce roi. Donc c'est Dias. Et Ebed-Meller obtient l'autorisation du roi de remonter Jérémie de la fosse. Et il y a une très belle scène, d'ailleurs il fait très attention, il envoie des cordes, mais aussi avec du tissu pour ne pas se scier sous les aisselles, donc il prend soin de la chair, ce qui est toujours très important. Et il retire Jérémie de la fosse, et on se dit, mais dans tout ce peuple, le seul qui a été un frère, qui a pris tous les risques pour sauver Jérémie, c'est cet Éthiopien. Et c'est une scène où c'est presque une naissance. C'est-à-dire, Jérémie sort du trou et il y a un alter ego, un autre lui-même qui l'attend, qui est Ebed-Meller. Mais il n'a rien pour lui. Il est Éthiopien, il n'est pas de la race, il n'est pas... Mais dans cette humanité profonde, enracinée en Dieu, oui, c'est une scène absolument fraternelle. Donc, vous voyez, ça ressurgit de tous les côtés. Et dans le Nouveau Testament, petite parenthèse, j'aurais dû parler de Agar, la servante égyptienne. Il se passe des tas de choses avec elle dans la Genèse. Vous savez que Agar, qui est enceinte d'Abraham, du petit Ismaël, elle rencontre un ange, hein, parce qu'elle se sauve de chez ses maîtres qui la maltraitent. Et elle rencontre un ange, le premier ange de la Bible, appelé ange. C'est pour la bonne égyptienne, ça j'adore. Et l'ange lui dit, tu es enceinte, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Toute cette scène est reprise dans la scène de l'Annonciation, Luc 1, où il y a une vingtaine d'allusions à Agar et l'ange dans la scène de l'Annonciation, par les mots, les thèmes, et notamment le cœur de l'Annonciation, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Ismaël. C'est la reprise textuelle. Et Marie, vous savez, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit à l'ange ? Voici la servante, évidemment, elle a pigé. On est dans la... Donc, que Marie puisse accomplir ou faire ressurgir sous nos yeux la bonne égyptienne, c'est quand même fort, ça. C'est-à-dire, on ne perd personne dans la Bible. Et ça, je viens d'écrire un petit livre, je me permets de faire un peu de pub, parce que, bon, il faut faire tourner le commerce, mais qui s'appelle « Brève rencontre ». C'est quelques personnages secondaires de la Bible, des personnages dont on parle entre un ou trois versets. Et je sais, il y en a quatre que j'essaie d'étudier, mais je donne aussi pas mal d'exemples en introduction et en conclusion avec d'autres. Au début je pensais faire 10 personnages, mais je n'ai pas le temps. Bon, voilà, l'éditeur m'a dit t'en fais 4, ça fait déjà un livre assez important. Mais on s'aperçoit que dans ces personnages de rien du tout, énormément de choses se jouent, ils sont en connexion avec des tas de choses, et finalement ils font ressurgir, vous voyez, toute la partie cachée de l'humanité. En leur personne, c'est tous les gens qu'on ne voit pas qui surgissent et qui ont quelque chose à nous dire.
vous avez parlé de Cananéen.
Oui.
Dans le Nouveau Testament, il s'agit de Syrophénicienne et de Cananéenne dans Marc et Matthieu. Justement, il s'agit d'une étrangère aussi. J'aurais aimé avoir votre éclairage par rapport au thème que vous abordez de l'étranger, du païen, de ce qui dérange, de ce qui ne rentre pas dans les clous. Votre éclairage par rapport à la réaction de Jésus dans le texte, dans ces deux textes, où d'abord il est dit qu'il ne souhaite, enfin, il vient se mettre à l'écart, donc la Judée, enfin j'entends qu'il ne veut pas être dérangé, et justement il va l'être par une femme, et sa manière de vivre cette rencontre, cette relation. Et d'abord le dérange et auquel il résiste, puisqu'il ne lui répond pas tout de suite, qu'il lui répond d'une certaine manière. En tout cas, voilà, cette femme dérange bien sûr, et ce que vit Jésus là, en ce temps de cette rencontre, par cette femme justement.
Oui, c'est une scène. Impressionnante, je dirais. Alors, je vais me fonder sur celui des deux dont j'ai plus le souvenir, qui est Matthieu 15. Il y a aussi dans Marc 7. Dans Matthieu 15, vous avez donc Jésus, la femme cananéenne, syrophénicienne, enfin toutes les nationalités, vient vers lui pour lui demander donc que sa fille soit libérée d'un démon qui la tourmente. Et Jésus ne dit rien. Après, quand il lui parle, c'est « Je suis venu pour les enfants d'Israël et on ne peut pas prendre, après, dit-il encore, le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Ce qui est, on se dit, zut, il n'y va pas de main morte. Mais il me semble que Jésus, et c'est important quand on réfléchit au dialogue et à la rencontre, il fait l'état des lieux. L'état des lieux, pour un juif de son époque et pour un rabbin juif, c'est on ne fréquente pas des étrangers, des étrangères, et en effet, on ne donne pas la manne d'Israël à des gens qui ne sauraient pas quoi en faire ou qui le dévoiraient. Et il dit ce qu'on attend qu'il dise. Un rabbin, un prof de son époque, on attend ça. Et il le fait, pourquoi, me semble-t-il, d'abord parce que ça permet à cette femme d'arriver. Il dialogue, les disciples lui disent tout de suite, maître, donne-lui ce qu'elle veut, elle nous poursuit de ses cris. Hein, c'est l'ambiance, attention, une dame, non. Et Jésus, dans son enseignement pour ses disciples, il y a souvent cet aspect, vous allez rencontrer des femmes. La Samaritaine, c'était trop pour eux, donc il les a envoyés faire les courses, et puis ils sont arrivés à la fin. Bon, mais tôt ou tard, il faudra rencontrer des femmes. Le matin de la résurrection, par exemple. Donc il faut vous y habituer. S'il avait écouté les disciples qui lui disaient « Donne-lui ce qu'elle veut, elle nous embête », on n'aurait pas eu cette scène. Donc le fait qu'il se laisse approcher, qu'il la laisse approcher, et on sent que les disciples font un cordon sanitaire, et puis ça ne marche pas, et puis, mais elle est là, la dame, là, hop, et au milieu, elle arrive au milieu, là où il est. Donc je pense qu'il la laisse approcher, et puis qu'il la laisse dire. Il ne lui dit pas tout de suite, ma pauvre chérie, je vais arranger les trucs. Non, on fait l'état des lieux. Il y a des choses qui nous séparent, et ça arrive souvent hein, dans la Bible. Rencontre, dialogue, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui nous séparent, et nous en prenons conscience, nous en prenons acte. Et cette femme, oui, c'est une femme, digne de ce titre de femme. Elle ne se démonte pas, ce qu'elle est là, elle est là pour la vie de sa fille. Jésus, elle a compris que par lui, la vie pouvait venir. Elle l'appelle fils de David. Hein, et c'est, donc pour une syrophénicienne, c'est toute la... les histoires de Salomon, justement, avec la Phénicie, le roi de Tyr, donc le fils de David, Salomon, etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il y a quelques allusions à ça. Mais je pense qu'il la laisse venir en montrant quelle est la situation objective à son époque. Et il va la laisser parler. Et la réaction de Jésus, c'est une des plus intenses réactions de toutes celles qu'il a. Il dit à cette femme, « Ô femme, grande est ta foi, que tout se passe comme tu veux. » Et l'expression « comme tu veux », on la trouve dans l'évangile de Matthieu deux fois, ici avec la syrophénicienne, et l'autre à Gethsémani, où Jésus parle à son père, non pas « comme je veux », mais « comme tu veux ». Et quand on lit le texte, les deux se font écho, les deux se recouvrent. Ce que cette femme veut, c'est ce que le Père veut, c'est-à-dire la vie. Contre vent et marée, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ce que le Père veut, ce que cette femme veut, c'est la vie. Sans se démonter, sans s'écrouler, sans la vie. Et je trouve que Jésus a montré le contexte géopolitique et religieux, et il fallait le faire, et il a fait émerger cette femme, il a fait en sorte que cette femme émerge, et il s'en est émerveillé de cette femme. Voyez, même pour le centurion romain, c'est ça aussi, le centurion ne va pas directement à Jésus parce qu'il y a trop de complications. Un officier romain qui vient demander un subalterne, il ne vient pas de lui-même. Enfin, on sent qu'on prend acte des situations. Et puis, il se passe quelque chose. Et je pense que cette femme, c'est une, au cœur de l'évangile de Matthieu, c'est un des personnages essentiels, enfin, celui à qui Jésus admire la foi. Dans les synoptiques, dès que Jésus parle de la foi, c'est avec des païens, ce qui est quand même un tout petit peu étonnant. J'ai redit ça l'autre jour dans une assemblée de catholiques et ils n'ont pas été contents. Enfin, je dis, c'est pas moi qui ai écrit les évangiles. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi, d'ailleurs? Et donc, je pense que là, ça permet de faire apparaître sans aménagement la grandeur de cette femme. On n'essaie pas on essaie de dire, ben non, il y a une situation objective qui nous sépare, et moi, un rabbin, ça vient pour les gens de son troupeau. Qu'est-ce que tu dis à ça? Et elle dit quelque chose, elle répond. Et je pense que c'est, pour moi, c'est une des plus grandes scènes de l'évangile.
Alors d'abord,
Ma rencontre tout à fait imprévue, c'est celle de Agéranza, après la mort de Bonaventure, un homme poussé dans l'esprit impur, il est sur le chemin de la mort, il est dans des tombeaux. Il voit Jésus devant, il se précipite vers lui. Parce que le premier, parlait de cette femme.
Vous avez entendu? Donc, monsieur Pa évoquait l'épisode du démoniaque de Gérasa, qui vit dans les tombeaux et qui rencontre Jésus. Oui, c'est une rencontre inconnue. En plus, il est de la Décapole, c'est un païen apparemment, hein, puisqu'il y a des troupeaux de cochons autour, donc c'est pas vraiment. C'est un épisode aussi très, très marquant. Il me semble que dans cet épisode, quand vous voyez cet homme qui possédait par un démon, qui vivait dans les tombeaux et qui sort du tombeau, à la fin Jésus lui parle et il est dans son bon sens, habillé, assis, et il n'est plus dans le tombeau. Pour moi, il y a une préfiguration du Christ sorti du tombeau et là encore une rencontre de type fraternel. On pourrait dire un démoniaque. Jésus va le prendre de haut, va le guérir, et puis non, il y a quelque chose dans cet homme soumis au pouvoir de la mort et du mal, qui sort de son tombeau pour entrer dans une vie d'homme sensé. Il y a quelque chose qui nous met sur le chemin de la résurrection, qui est très impressionnant. Et vous savez que dans ce chapitre, les gens donc savent qu'il est là, il fait partie du décor, finalement, avoir un possédé chez soi, on a peur, mais bon, ça, pourquoi pas, au moins il est dingue, c'est pas nous qui sommes dingues, c'est lui, vous savez, c'est toujours dans les groupes, c'est quelque chose d'assez fréquent, on a son possédé, comme ça, non, nous on n'est pas possédé, c'est lui, ça se voit, d'accord. Il est chargé de porter la situation de tous. Et les gens, quand ils voient le possédé dans son bon sens, assis, habillé dans son bon sens, ils eurent très peur. Mais ils sont cons ou quoi ? Enfin, justement, il n'y a plus à avoir peur, les chefs. Donc avant, ils n'avaient pas si peur que ça. Ça faisait partie du décor. Et là, tout d'un coup, cet homme... qui entrait dans sa dignité d'homme, ben ils sont paniqués. Ah là là, il n'est plus là, notre fou. Ben alors, on va peut-être apparaître comme fou. Oui, c'est ça. Donc, ils se cassent et ils vont... Bon. Mais je dirais, vous voyez, comme toujours, la rencontre est une rencontre. C'est jamais... les rencontres avec Jésus, c'est jamais du sauvetage ou de la condescendance. C'est, je dirais, cet homme sorti du tombeau, ben c'est déjà lui, quoi. Il est associé à son mystère. Et je pense que la rencontre avec le Christ, c'est toujours la participation, c'est ce qu'il dit hein, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, avoir part avec lui, ni plus ni moins. C'est pas, il m'a donné un petit truc, bon, puis maintenant je suis content avec un petit truc. Non, c'est, j'ai part à ce qu'il est. C'est-à-dire, je suis fils avec le Fils, je ressuscite avec le ressuscité, et rien de moins que ça.
Merci d'abord pour la fraîcheur avec laquelle vous nous faites partager les textes bibliques. Je voulais revenir sur les trois grâces qui m'ont beaucoup fait sourire. Vous avez parlé donc des trois prénoms de ce jeu de mots. Quel écho peut-on donner avec le Yeshua, justement, puisqu'elles accompagnent cette naissance? Est-ce que là aussi, dans la signification des noms, est-ce qu'on peut partager quelque chose? Et puis, par rapport à ces trois femmes, est-ce qu'il y a un écho à donner, j'imagine que oui, avec les trois femmes au pied de la croix? Et si oui, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire?
Beaucoup de choses. Sur les trois femmes, dans Saint-Luc, je pense qu'il y a un écho avec les trois femmes, les trois leaders du groupe des femmes dans Luc 24. Le matin de la résurrection, il y a un groupe de femmes dans Luc, et les trois leaders, c'est Johanna, une autre Anne, hein, donc le Seigneur fait grâce, et deux Marie qui conduisent un groupe de femmes. Donc je pense que les trois femmes du début sont en écho, sont en annonce des femmes de la fin. Et si vous regardez la prophétesse Anne dans Luc 2, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est déjà, on passe déjà à une parole de type apostolique. Elle préfigure les apôtres. C'est toujours les femmes qui, dans les évangiles, qui sont les premières, enfin, qui donnent la première image de ce que c'est que l'apostolat. Donc je pense qu'il y a tout un programme dans Luc, hein, un programme de rencontre d'hommes et de femmes. Luc insiste beaucoup, vous le savez, c'est une banalité de dire ça, mais dans Luc il y a ces trois couples, si on peut dire au début, hein, Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie, et c'est pas un couple, mais Siméon et Anne, c'est-à-dire s'il y a un... On ne dit pas que Siméon est vieux, hein, dans le texte, positivement, on ne le dit pas, mais on comprend que ce n'est pas un jeune homme. Mais il lui faut une amie féminine, Anne, à côté de lui. Et si on étudie, j'ai consacré un chapitre de ce petit livre sur Brève Rencontre, sur Anne, justement, trois versets et voilà. Et justement, je voudrais en dire une petite chose sur le nom Jésus, Yeshua. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. Il y a le grand Yeshua de l'Ancien Testament, c'est Josué, sur lequel j'ai pas mal travaillé aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de résurgence dans Jésus. Mais je vous dis une chose. Alors, quand même, lisez le livre malgré tout. C'est juste 2-3 pages que je vous livre ici. Mais quand j'ai découvert ça, c'était un peu une commotion biblique. On dit que la prophétesse Anne est de la tribu d'Asher. Vous savez, en Luc 2, verset 36, Or, il y avait au temple une prophétesse, Anne, de la tribu d'Asher, fille de Phanuel, etc. Tribu d'Asher. Donc, je me suis dit, Asher, c'est une des 12 tribus, on n'en parle pas beaucoup dans l'Ancien Testament, et très vite, on n'en parle quasiment plus, d'ailleurs. Mais j'ai regardé d'où ça vient. Donc, Asher, c'est un fils de la servante de Léa, que Léa adopte. C'est Genèse 30 au verset 13, quand le petit garçon naît, Léa l'adopte et dit « Bienheureuse je suis » et ça donne le nom au garçon, hein, le Asher, ça veut dire « bienheureux ».« Bienheureuse je suis » et désormais toutes les femmes me diront « bienheureuse », qui est une phrase qu'on va retrouver dans le Magnificat. Et alors Asher, on apprend après dans la Genèse, c'est le chapitre 36, je crois, de la Genèse. Oui, la généalogie des fils de Jacob. Oui, je crois que c'est 36. Donc, on dit que Asher, il a eu, donc, un des 12 fils de Jacob, auteur d'une tribu, il a 4 fils et une fille. Alors, on décline le nom des fils. C'est Yishui, Beria, encore un, et puis une fille. Voilà, 4 fils et une fille. Et on retrouve cette généalogie dans le livre des Nombres. Les Nombres, comme le nom l'indique, dénombre Israël, donc reprend les généalogies, les complète, etc. Bon. Et dans le livre des Nombres, je crois que c'est nombre 17, on reprend les généalogies, et Asher a 3 fils et une fille. 4 fils dans la Genèse, 3 fils dans les Nombres. Il manque un garçon, et c'est le garçon qui s'appelle Yishua. C'est pas tout à fait Yeshua, mais c'est une sorte de nom condensé. Il manque un petit Yeshua, il manque un petit Jésus dans la tribu d'Asher. Et alors, bon, on peut se dire, c'est simplement, le mot est tombé dans les recopiages, son frère s'appelle Yishui, ça se ressemble, ils ont dû, les copistes ont dû se tromper. C'est vrai. Mais alors, dès l'Antiquité, les rabbins se sont tout de suite aperçus de ça. Ils ont dit, Asher a 4 fils dans la Genèse, 3 fils dans les Nombres, il y en a un qui est perdu. Vous voyez toute la question de tout à l'heure. Ce qu'on perd, ce dont on se sépare pour X raisons, y compris une raison textuelle, est-ce qu'on va les retrouver un jour? Et alors les rabbins ont dit, il y a 2 choses étonnantes dans le verset des Nombres et de la Genèse. Il y a un fils qui manque, Yishua, et puis ils mettent une fille, notamment dans les Nombres. Dans les Nombres, on décrit les garçons parce que c'est des listes de soldats, des hommes d'Israël qui peuvent se battre. Pourquoi une fille? Alors les rabbins ont dit, il y a une raison. Puisque on perd un garçon, le petit Yeshua est perdu, mais on met le nom de sa sœur, c'est que sa sœur doit retrouver ce garçon. Et il s'est développé dans le judaïsme jusqu'au Moyen-Âge, tout un cycle de légendes sur la sœur de Yeshua, la fille d'Asher, qui est devenue une très vieille dame et qui, en Israël, cherchait les enfants perdus. Pourquoi? Ben, parce que, justement, dans sa propre généalogie, il y a un frère perdu. Et alors, c'est elle qui a dit à Jacob, « Ne t'inquiète pas, Joseph n'est pas mort comme tes fils te l'ont fait croire, il est en Égypte et tu le retrouveras un jour. » Elle a dit à d'autres, « Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir d'Égypte, il y a un petit garçon qui vient de naître, je l'ai trouvé, c'est Moïse, etc. » Ça, c'est les traditions juives. Et donc, c'est devenu une très vieille dame, fille d'Asher, qui retrouvait les enfants perdus. Lisons Saint-Luc. Or, il y avait à Jérusalem, survint une femme, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asher. Elle avait 84 ans. Aussitôt, venant voir l'enfant, elle parlait de lui à tous ceux qui attendaient. Elle a retrouvé son petit Yeshua. La fille d'Asher a retrouvé son petit Yeshua. C'est-à-dire que Luc connaît aussi non seulement très bien la religion grecque et romaine, mais aussi très bien les traditions juives qui ne seront consignées par écrit que beaucoup plus tard. Et je pense que, vous voyez, il y a Yeshua, on pourrait dire beaucoup de choses, donc il y a Josué, il y a des tas de choses là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi des choses beaucoup plus fines avec des gens perdus. Et dans la Bible, on ne se réjouit pas à perdre ce qu'on a perdu. Si on a fait allusion à quelqu'un dans un texte, ben, il va ressurgir un jour. Et ça aussi, je pense que c'est le regard biblique. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait un livre sur les petits personnages, les personnages brefs, parce que en fait, ceux qu'on ne voit pas dans les textes, on ne les voit pas dans la vie non plus. il y a une sorte de rencontre du texte et de la vie vécue. Et la Bible organise ça. Vous voyez ? Voilà. Bon.
Est-ce que vous êtes en dialogue avec des exégètes juifs, enfin de la tradition
Un peu. J'ai un de mes collègues à Fribourg, Yohanan Goldman, que je vous recommande aussi, qui est un juif, qui a fait une yeshiva et qui est devenu chrétien. Et comme il était marié, il avait des enfants, mais il a voulu être prêtre, donc il est devenu prêtre melkite, donc une église d'Orient rattachée à Rome, et, bon, où on accepte femmes et enfants. Donc il a un parcours tout à fait étonnant. Et c'est avec lui que je suis le plus en dialogue, parce que lui, il a vraiment une forme d'esprit juive. Il a étudié avec un rabbin en Israël, il est entre autres citoyen israélien avec deux, trois autres nationalités. Et on s'est vraiment rencontrés. Et sinon, je suis allé plusieurs fois à des colloques où je présente des choses comme ça. Par exemple, un jour, j'avais présenté un colloque, la figure d'Absalom, le fils de David, vous savez, qui meurt dans un arbre. Et je pense que c'est un texte clé dans l'écriture que fait en particulier Matthieu de la crucifixion de Jésus. Donc, le fils de David mort dans un arbre, désobéissant, Absalom. Donc il faut le reprendre parce qu'on n'oublie personne, on ne perd personne dans la Bible, etc. On récapitule tout. Le fils obéissant Jésus va mourir de la même façon. Dieu l'a fait pécher pour nous, il est mort de la mort des pécheurs. Et donc je faisais un truc parce que textuellement, alors j'avais fait un truc très savant avec de l'hébreu, de l'araméen, peu importe. Mais pour dire, c'était un colloque, c'était pas une petite causerie comme ça, c'était démontré. Et alors la personne qui m'a le plus, qui a intervenu tout de suite, c'était une prof juive, Déborah Dimand, qui enseigne à l'université hébraïque, et qui a dit, il a raison, c'est comme ça. Enfin bon, et donc j'avais des collègues beaucoup moins chauds pour comparer l'Ancien et le Nouveau Testament, attention, il faut être très prudent, etc. Bon, je pourrais raconter beaucoup là-dessus. Et cette femme juive m'a dit, donc j'avais pas mal parlé avec elle, et j'ai rencontré quelques collègues comme ça, mais c'est... Il y en a une qui m'a dit, mais vous avez raison et c'est trop troublant. Bon, alors, je sais pas. Mais j'aimerais maintenant que j'ai un petit peu plus de bouteilles ou d'assurance pouvoir dialoguer plus précisément. Oui. Oui, monsieur.
Oh, une question de chiffres. J'ai cru comprendre au début que vous citiez, vous évoquiez le psaume 119.
Oui.
Verset 30 qui se termine par et les âmes le comprennent.
Oui.
Les âmes le comprennent.
Oui.
Et le 118.
C'est 118. 118 dans la liturgie et 119 dans les Bibles éditées de nos jours. Voilà. Il y a toujours le petit décrochement d'un verset pendant. Parti. Monsieur.
En vous écoutant attentivement, j'ai eu l'impression que peut-être je me trompe, que vous parlez de la Bible en tant que croyant et pas réellement en tant que linguiste, ethnologue ou historien. Mais je suis trompé.
Alors, j'en parle en tant que croyant, mais je pense que ce n'est pas tout à fait incompatible avec des études. J'ai fait des études un petit peu solides, malgré tout, à l'école biblique de Jérusalem, puis dans différents endroits. Disons, ce que j'ai trouvé de plus percutant dans la Bible, je l'ai trouvé plutôt dans le registre... du bibliste, c'est pas des choses comme ça. Je l'ai trouvé avec les langues, avec la comparaison de l'hébreu. J'ai fait beaucoup de critiques textuelles, c'était ma thèse là-dessus, donc des comparaisons de manuscrits, des choses comme ça. Et par exemple sur le temple, ce que j'ai découvert sur le temple, un temple en annonce un autre, je peux dire que c'est dans la profondeur du texte, de sa tradition textuelle en hébreu, en grec, en latin aussi, etc. Et peu à peu, c'est ce qui m'est apparu. C'est-à-dire, il n'y a pas ce que le croyant dit, c'est un peu des élucubrations croyantes, c'est beau, mais enfin bon. Et puis il y a de l'autre côté le monde scientifique où là il n'y a rien de tout ça dans le texte, et puis tout ce que tu peux dire d'un peu attrayant sur le texte, c'est, en fait tu l'insuffles de manière artificielle. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, je pense que le texte dans ce qu'il est, dans ses traditions manuscrites, c'est très complexe, hein, la Bible, je trouve c'est un terreau, c'est-à-dire quelle que soit la dimension qu'on aborde dans le texte, on trouve ça et on trouve des fondations pour tout ça. Et j'ai beaucoup, avant d'être dominicain, j'ai eu une autre vie, j'étais prof de lettres, de littérature, donc j'ai un petit peu étudié justement la comparaison. C'est des choses qui se font maintenant beaucoup plus qu'elles ne se faisaient il y a encore 20 ans, entre par exemple la Bible et les mythologies ambiantes, par exemple les mythologies grecques, et on s'aperçoit que les auteurs bibliques sont très conscients des choses quand ils s'approprient des choses, mais ça demande qu'on les étudie d'un peu près. Donc vous voyez, bon, je pense qu'il n'y a pas une scission entre le croyant et le savant, et qu'il faudrait, si on est trop croyant, ça veut dire qu'on n'est pas très savant, et réciproquement et tout ça. Justement, il y a un dialogue entre les deux. Et il y a un bibliste que j'aime bien, dominicain, le père Lagrange, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, qui justement a dit la foi, c'est une instance utile à la raison. Parce que comme j'ai la foi, je ne suis pas prêt à croire n'importe quelle théorie. Et je vais en faire une critique très savante pour montrer que telle ou telle théorie... Donc la foi, ça aide aussi à ne pas prendre... Vous savez, en Bible, j'ai écrit des petites études, par exemple sur les personnages dont on parle peu, Melchisédek. Melchisédek, il y a 40 ans, on disait « c'est une insertion qu'on a ajoutée probablement à l'époque de la monarchie, 7e, 8e siècle avant notre ère. » Donc un petit personnage qu'on a ajouté comme ça pour montrer des trucs idéologiques liés au roi. 20 ans après, on a dit non, c'est une insertion qui a été ajoutée après l'exil, au 5e siècle, pour montrer un certain nombre de choses utiles pour le 5e siècle. Aujourd'hui, on dit non, il a été ajouté peut-être au 2e siècle avant notre ère. Et les plus grands savants disent ça. Bon, donc on dit quelquefois aussi dans la science, ça tâtonne un peu. Donc je crois que peu à peu, dans une vie où on s'intéresse à la Bible et on essaie de l'étudier un peu de près, il y a des choses qui se font. C'est pas facile tout de suite. Est-ce que je suis trop croyant et pas assez scientifique? Est-ce que je suis trop scientifique mais alors ma foi en pâtit? Il faut traverser tout ça, et c'est dur, et j'ai passé des nuits blanches avec des... quand vous entendez dire l'archéologie ne confirme pas tel truc biblique, il faut aborder ce problème, se laisser couler dedans, se laisser bouleverser, désarçonner, et on essaie de comprendre, et on trouve quelquefois des réponses. Voilà, c'est un peu ce que j'exprime, c'est les quelques résultats d'une vie où il n'y a pas, on ne privilégie pas quelque chose plutôt qu'un autre, et où on se laisse rouler par la vague, et on essaie de faire son chemin dans tout ça. C'est ce que je dirais.
Il n'est pas 2h du matin, peut-être conclure. Philippe, je voudrais vous citer un petit texte que Monique m'a fait parvenir. Vous savez, lors de nos rencontres, on est allé à Marseille. Nous avons rencontré à l'ISTR, l'Institut de théologie et de religion de Marseille, Jean-Marc Aveline, qui maintenant est évêque auxiliaire de Marseille. Ils éditent une revue magnifique qui s'appelle Chemin de dialogue, à laquelle Univers est abonné. Et voilà un petit extrait d'un texte. Il faut que je remette mes lunettes. Un petit extrait d'un texte écrit par l'évêque actuel de Marseille, Georges Pontier, pour la revue Chemin du Dialogue. Les 11 premiers chapitres de la Bible nous livrent la longue réflexion du peuple des croyants pour comprendre d'où nous venons, où nous allons, où est Dieu, pourquoi le mal, pourquoi le péché, comment vivre ensemble, comment tenir dans l'épreuve, quelle espérance est possible? Dans la rencontre de nos contemporains, dans notre dialogue avec les croyants d'autres religions, ou avec l'univers culturel au milieu duquel nous vivons, c'est bien ce même dialogue qui se noue autour de ces mêmes questions. Où trouver les sources de l'humanisation de l'humanité? Bien, je crois que vous avez bien répondu à cette question, parce que déjà dans la Bible, il y a une source magnifique et vous en avez fait percevoir vraiment la grandeur et la vitalité. Et on vous remercie infiniment pour ça. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Merci et on continue le dialogue.
Et puis, évidemment, tout à l'heure, Philippe a parlé aussi des besoins matériels. Donc, n'oubliez pas la sortie, il y a une petite corbeille pour les frais de cette soirée. Et puis, il y a une petite bibliothèque aussi. Je crois qu'il y a des livres de Philippe, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous.
Merci. Je change un petit mot, est-ce qu'il y a des personnes à accompagner? Parce que tout le monde est. Voilà, tout le monde a trouvé un chauffeur. Madame? Vous savez que je voulais partir?
Il y a une chose que je n'ai pas dit, parce que j'ai beaucoup aimé que vous parliez de Muse et de Ruth, parce que moi je trouve que le poème de Victor Hugo, Rose endormie, pour moi, c'est un peu plus.